rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle Pliéniné. Ils ont dressé la table pour nourrir les saints de Dieu. Il invite ses élus, viens au repas. De sa main, il nous nourrit, subvient à tous nos besoins. Il est bon de souper avec Jésus-Christ. Viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Les disciples sont venus, obéissant à l'ordre de Christ, car le maître les appelle, viens dîner. Ah, ils ont trouvé la joie, pain et poisson sur le feu, ainsi ils satisfaient les affamés. Combien aime le Seigneur? Loué soit le Seigneur. Nous sommes ici pour manger à sa table. Le premier refrain, tous ensemble. Mais le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Obéissant à l'ordre de Christ, car le maître les appelle, viens dîner. Là, ils ont trouvé la joie, pain et poisson sur le feu, ainsi ils satisfaient les affamés. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. Loué soit le Seigneur. Viens au repas, ce sera un glorieux jour. Tous les saints vêtus de blanc avec Jésus festoieront éternellement. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là. Ce sera ce glorieux jour. Tous les saints vêtus de blanc avec Jésus festoieront éternellement. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. C'est le message de l'heure et le désir de notre cœur d'entendre la voix de Dieu de notre jour. Et peu importe ce qu'ils disent, nous ne faisons que press play pour entendre cette nourriture emmagasinée. Et le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui. C'est pour entendre ainsi dit le Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Ah, oh, nous sommes des gens heureux. Amen. Et bientôt, l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. Ce sera un glorieux jour. Tous les saints vêtus de blanc avec Jésus festoieront éternellement. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Puis festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi long en vain. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. C'est le message de l'heure et le désir de notre cœur d'entendre la voix de Dieu de notre jour. Et peu importe ce qu'ils disent, nous ne faisons que press play pour entendre cette nourriture emmagasinée. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes venus manger sur l'ainsi dit le Seigneur. Nous allons le chanter une dernière fois. Dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. Loué soit le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est bien d'être avec vous ce matin. De vous souhaiter la bienvenue tous dans le nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment, nous sommes ici pour manger sur l'ainsi dit le Seigneur. Il n'y a qu'une seule façon d'entendre l'ainsi dit le Seigneur, et c'est lorsque vous entendez le prophète vous parler directement. Et c'est ce que nous sommes ici pour faire. C'est la seule raison pourquoi nous sommes ici. C'est pour nous entendre ce prophète nous parler à nous. Et nous savons que nous reposons sur chaque virgule, chaque mot, chaque point que ce prophète nous a déclaré. Nous le croyons et ça règle la question. Amen. C'est là où est notre absolu. Je vous souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Combien de visiteurs avons-nous ici ce matin qui sont en visite? Oh, nous avons quelques-uns. Oh, loué soit le Seigneur. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous souhaite, vous soyez bienvenus dans le nom du Seigneur. Nous sommes ici pour entendre la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et nous avons aussi envoyé des salutations à tous ceux qui sont sur le hookup, sur la ligne, à travers le monde entier. C'est bien d'être unis à travers le monde avec l'épouse, à travers le monde entier. Amen. Nous vous aimons.
Amen. Praise the Lord.
Loué soit le Seigneur.
It's such an honor.
C'est tellement un honneur.
I'm so thankful.
Je suis si reconnaissant pour cette parole qui unit l'épouse ensemble. Il n'y a que ce message qui peut le faire. Nous envoyons également nos salutations à Frère Joseph. Nous t'aimons, Frère Joseph. Nous sommes si reconnaissants de t'avoir et pour ta vie consacrée à Dieu, de nous conduire et nous guider. Et nous sommes si reconnaissants que Dieu t'ait permis d'être avec nous. Et Frère Joseph, nous voudrions également dire merci de nous avoir invités, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde entier, à entendre ce message que Dieu a placé sur ton cœur. Merci pour ton amour envers nous et pour ta grâce. Nous remercions simplement le Seigneur. Je ne crois pas qu'on puisse assez le dire. Notre appréciation de Frère Joseph, le fardeau qu'il a sur les épaules, c'est au-delà de moi. Je ne peux pas le comprendre. Mais je veux seulement te dire merci, Seigneur Jésus. N'êtes-vous pas heureux pour sa grâce? C'est que chaque fois que Dieu a fait quelque chose, dans les pages de sa parole, chaque fois,
Et il utilise un prophète.
What a blessed people we are.
Quel gens privilégiés nous sommes. Hébreux 13, 8.
Praise the name of the Lord.
Loué soit le nom du Seigneur.
His grace is unmerited.
Sa grâce est une faveur imméritée. C'est incroyable.
We can never exhaust his grace.
Nous ne pourrons jamais épuiser sa grâce.
We can never underestimate the grace of God.
On ne peut jamais sous-estimer la grâce de Dieu pour nous. Et il fait un chemin quand il semble n'y avoir aucune voie possible. Et il fait encore et encore et encore. Il ne faillit jamais. Il est toujours là. Il est parfait dans chaque décision. Ça n'a pas d'importance comment nous le comprenons, comment nous le regardons. Et il est parfait. Et il sait ce qu'il fait. Nous sommes ceux qui ne savons pas ce que nous faisons. Du moins, ça c'est pour moi. Chaque fois, « Oh Seigneur, aide-moi! »
I've been listening to the news.
J'ai écouté les nouvelles.
And the news report.
Et les nouvelles disent que ce que j'ai entendu,
is that you're a child of God.
C'est que vous êtes un enfant de Dieu.
You're predestinated to
vous êtes prédestiné à l'adoption. Jésus-Christ.
You're saved.
Vous êtes sauvé. Vous êtes guéri.
You're sealed by the
vous
Holy
êtes
Ghost.
Scellé par le Saint-Esprit.
You have nothing to worry about.
Vous n'avez rien à craindre.
You're safe.
Vous êtes sauf, vous êtes sécurisé. Le signe est appliqué.
You're resting.
Vous reposez sur chaque promesse qui se trouve dans cette parole.
You're resting upon.
Vous reposez sur l'incité, le Seigneur.
Nothing.
Rien ne peut vous arriver à moins que Dieu le permet que cela arrive. Quels gens privilégiés nous sommes aujourd'hui. C'est merveilleux. C'est les rapports que je reçois. Pas seulement ça. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. J'aime ça. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut vous enlever cette position que Dieu vous a donnée. Rien. Aucune arme contre vous. Rien ne peut venir contre vous. Ça ne peut pas. Ça va disparaître chaque fois devant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ parce que nous possédons chaque porte de l'ennemi, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit. Ça n'a pas d'importance. Cette parole en vous, c'est ce que vous avez. Vous avez cette parole en vous. Vous êtes une partie de cette parole. Oh, ça devient encore mieux. Vous êtes l'Église. Vous êtes ce réveil de Welsh. Partout où vous allez, 24 heures sur 7, c'est vous.
Amen.
Loué soit le Seigneur.
Amen. God bless you.
Que le Seigneur vous bénisse.
Wow. Where's the revival at?
Où est le réveil? Here. Juste Amen. Ici. Amen.
Wow. Well, what station have you been listening to, Brother Samuel?
Et quelle bande
the
as-tu écouté,
radio. Amen.
Frère Samuel? La radio de la voix. Gloire, je suis l'un d'entre eux. Amen. Je suis l'un d'entre eux. Loué soit le Seigneur. Oui, monsieur. C'est la seule façon que vous allez recevoir ce rapport. C'est d'entendre cette voix de ce prophète. Amen. Nous sommes dans l'Église 24 heures sur 7, unis avec l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous écoutons. Ils ne peuvent pas fermer notre Église. Nous sommes l'Église. Nous avons un pasteur. Amen.
Amen.
Dieu vous bénisse. Loué soit le Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux pour nous. Oh, c'est tellement encourageant pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en sécurité. Vous savez où vous tenez. Vous savez ce qu'il y en est. C'est la révélation qui vous a été donnée à vous. Vous êtes ceux qui sont élus. Vous êtes ceux qui ont été choisis. Frère Branham a dit, dans ce message, citation, « Mais Dieu, riche en miséricorde, a pourvu d'un moyen pour que les enfants hébreux puissent s'échapper. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient le sentier du devoir. Ils suivaient la parole. Or, le seul moyen d'obtenir miséricorde, c'est ça, c'est de suivre les directives que Dieu nous a données pour que nous lui suivions. C'est seulement là qu'il peut exercer sa miséricorde, c'est quand nous suivons ce qu'il a dit. Fin de la citation. À qui vient la parole? À qui vient la parole? Au prophète. Amen. Nous suivons ce prophète. Nous entendons cette voix. C'est la voix de Dieu pour nous, par la voix de son messager. C'est la voix pourvue par Dieu. C'est le programme de Dieu. C'est sa volonté parfaite. Ce message, lorsque vous l'entendez, vous entendez la pensée de Dieu qui vient directement de son prophète. C'est automatique. Lorsque vous appuyez sur play, et juste à ce moment-là, que vous le reconnaissiez ou non, cela vous amène dans la présence de Jésus-Christ. Alors, peu importe ce dont vous avez besoin, peu importe ce que Frère Branham dit ou de quoi il parle, peu importe le sujet, ça n'a pas d'importance. Vous êtes dans la présence de Dieu. Alors, juste là, si vous croyez seulement, tout est possible. Prenez-le maintenant là, juste là, c'est à moi, je le prends. C'est à moi, ça m'appartient, je suis l'épouse, je le prends, juste là. Que ce soit la guérison, des besoins financiers, quoi que ce soit, je le prends juste là. Parce que ça, c'est la promesse, c'est sur quoi je m'appuie. Ce message est la ligne de vie. C'est le signe. C'est la parole parlée qui apporte la semence. Épouse, c'est tout ce qu'elle peut produire. Et vous êtes cette épouse. Elle vous a appelé, vous a choisi, vous a élu. Et devinez quoi, ça n'a rien à voir avec vous. Il n'y a personne ici qui peut se vanter et dire, « Oh, j'ai fait ceci, alors je suis bon pour être dans l'épouse. » Non, je n'ai rien fait. Rien. Je suis indigne, je ne le mérite pas, je n'ai aucun mérite, il n'y a rien que j'ai jamais rien fait ou que j'ai dit que je puisse dire devant le Seigneur que je mérite sa grâce. Non, monsieur, c'est parce que lui vous a aimé, il m'a aimé et qu'il a étendu sa grâce sur vous et moi. C'est pour ce qu'il a fait, lui, pour vous et moi. Nous sommes ici pour faire une seule chose, et c'est d'entendre cette parole, de suivre le programme de Dieu. Et il pourvoit à chaque besoin. Je ne suis pas un Jéhoshaphat. J'aimerais vous lire une écriture qu'on trouve dans 2 Chroniques 20, verset 17. Chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point demain. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche au grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Jéhoshaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Loué soit le Seigneur. Ne changez aucune parole de ce message. Laissez-le tel qu'il est. C'est la parole parfaite de Dieu. Frère Branham a dit, citation, et c'est ainsi que je le dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'ajoutez à rien, ne rentrez chez, ne mettez pas votre propre pensée là-dedans, dites seulement ce qu'elle dit sur ces bancs. Fin de la citation. Amen, ça règle la question. Mais Samuel, l'armée du Pharaon s'en vient, ils sont juste là. Oui. Et là, il y a la mer Rouge. Oui. Mon ami, comme à chaque jour, mes yeux deviennent de plus en plus faibles à cette mer Rouge et cette armée du Pharaon. Je vois qu'une seule chose, et c'est Jésus-Christ. Et son prophète. Et il est Hébreux 13:8. Et il a un prophète dans le pays. Alors, tout va bien. C'est notre position et c'est là où est la parole. Alors que ce soit l'armée du Pharaon et la mer Rouge, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas et je m'en fous. J'ai seulement mes yeux rivés sur ce prophète. Écoutez-le. Et c'est la fin de tout ça. Je me repose là-dessus. Je crois à chaque parole. Nous appliquons le signe. Nous n'avons rien à craindre. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Il pourrait y avoir un cancer ici, des problèmes de financiers, de la guérison, toutes ces choses ici, les besoins qui ont été écrits. Ils sont sérieux. Et il y a des besoins sur votre cœur que vous n'avez peut-être pas pris en note, mais Dieu les connaît. Mais notre Dieu est Dieu, il fait, il pourvoit nos chemins, là il semble y avoir aucun chemin. Il est un Dieu qui ne faillit jamais, il est toujours présent. Je suis. Loué soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'il est bon pour vous? Absolument. Sans équivoque, il est bon tout le temps. Merci, Seigneur.
Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon.
Gracieux Père Céleste, comme nous t'aimons, Seigneur, comme nous te louons, Père. Seigneur, juste d'entendre Samuel ici. Oh Dieu, tout ce que tu as fait, Seigneur, nous n'avons rien à craindre, Père. Tu l'as tout fait pour nous, Seigneur. Nous avançons devant toi ce matin.
Et
je m'avance ici derrière la l'estrade, Seigneur, et derrière cette ce rideau, Seigneur, je sens ta présence. Elle est tellement forte, Seigneur, ta présence. Et nous savons que tu es ici parmi nous, Père. Cette même colonne de feu, Seigneur, qui est venue avec les enfants d'Israël. le même qui était dans Frère Branham, ce prophète qui est venu et qui a prononcé ces paroles, Seigneur. Et ce n'est pas ses paroles, c'était tes paroles, Seigneur. Et Seigneur, alors que nous se tient devant toi ce matin, nous croyons ces paroles, nous croyons la voix, nous croyons le message de l'heure, Seigneur. Et Seigneur, alors que nous ne croyons pas, nous n'avons pas confiance dans une prière, Seigneur, mais c'est dans la promesse que nous avons confiance, Seigneur, dans ces promesses que tu nous as données, Seigneur. Et tes promesses ne faillissent jamais, Seigneur. Elles viennent toujours à s'accomplir. Et nous tenons devant toi, Seigneur, nous humblement inclinons la tête et nous te demandons de venir répondre à les requêtes de prière de ces personnes, Seigneur. Ceux sur la ligne à l'écoute à travers le monde entier. Tu es le même Dieu aujourd'hui, pour toujours et éternellement, et nous te croyons et nous te demandons d'aller répondre à ses besoins, Seigneur. Peu importe comment il est petit ou peu. Comment il est grand, Seigneur. L'heure n'est pas terminée encore. Nous prions que tu touches chaque personne, Seigneur. Nous t'aimons. Et Seigneur, nous te sommes si reconnaissants, Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, et être parmi nous, Seigneur, alors que nous avons l'opportunité d'entendre ta voix. Seigneur, riche en miséricorde. Réponds à chaque cœur, Seigneur, qu'il n'y ait rien, Seigneur, que nos cœurs brûlent à l'intérieur de nous lorsque nous avons quitté le bâtiment, Seigneur, que chaque requête soit répondue, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole et tout ce que tu as fait. Seigneur, sois avec Frère Joseph, car véritablement, et la famille Lillingham, bénis-les, réconforte-les. Frère Dan, il va nous manquer. Oh, Père. Seigneur, je ne peux pas dire. Je ne connais, je ne sais pas si tout le monde ici le sait, mais c'est lui qui m'a introduit au message. C'est lui qui m'a donné la première bande. Et Seigneur, comme je l'aime. Et Père, à cause de ce jour, il m'a donné l'histoire de ma vie. Maintenant, il se tient avec une telle révélation, un tel amour pour toi. Je veux te remercier pour notre frère, parce que je sais que je vais le revoir de nouveau. Et nous sommes reconnaissants pour ta parole et ce message de l'heure. Bénis chaque personne, nous le demandons et nous prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
God is so good. God is so good. God is so good. Il est si bon.
Véritablement, il est si bon pour chacun d'entre nous. On ne peut pas nommer les choses qu'il a faites pour chacun d'entre nous. Une chose que je sais, que je suis reconnaissant que nous sommes rassemblés tous ensemble cet après-midi, je ne peux pas attendre d'entendre ce message. Quel excitement juste à y penser, c'est car je sais que c'est exactement le message que nous sommes supposés d'entendre à ce moment précis. Combien
Just leave it all there.
Et on des fardeaux, laissez-les juste là. Nous sommes si reconnaissants pour ça.
And if the world from you withhold of its silver and its gold,
si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus seul peut te guérir, Jésus seul peut te guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur.
Amen. How wonderful it is today, Lord.
Comme c'est merveilleux aujourd'hui, juste de pouvoir de tout remettre sur ton autel. Ben, comme nous sommes reconnaissants pour cette parole, pour ta miséricorde, ta grâce, le salut, Seigneur. Prions pour ces dîmes et ces offrandes et ce service dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrait peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Quand ta jeunesse est terminée et la vieillesse te rattrape, et ton cœur succombe sous le poids des fardeaux, il ne te quittera jamais jusqu'au bout, il sera là. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Les promesses dans le livre sont à moi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, je fais confiance en son amour divin. Toutes les promesses dans le livre sont à moi. Toutes les promesses sur les bancs sont à moi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, je fais confiance à son amour divin. Toutes les promesses dans le livre sont à moi. Toutes les promesses sur les bancs sont à moi. Chaque son, chaque parole, chaque ligne, je fais confiance à sa parole divine. Toutes les promesses sur les bancs sont à moi. Toutes les promesses sur les bancs sont à moi. chaque son, chaque parole, chaque ligne. Je fais confiance à sa parole divine. Toutes les promesses sur les bancs sont à moi. Chantons la contre. Toutes les promesses sur les bancs sont à moi. Chaque son, chaque parole, chaque ligne. Je fais confiance à sa parole divine. Toutes les promesses sur les bancs sont à moi. Saints de Dieu seront rassemblés à la maison. Nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux pas à pas. Pas à pas, quand le matin vient, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés à la maison, nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux pas à pas. Vous les frères maintenant, chantez! Pas, quand le matin vient, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés à la maison, nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux, pas à pas. Les sœurs maintenant. Pas à pas, quand le matin vient, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés à la maison, nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux pas à pas. Les ciels sombres et des tempêtes bruyantes, souvent succédées par un soleil éclatant. Dans ce pays, le jour parfait, quand les brumes se sont dissipées, nous le comprendrons mieux pas à pas. Pas à pas, quand le matin vient, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés à la maison, nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux pas à pas. Nous sommes souvent démunis des choses que la vie exige. Manque de nourriture et manque d'abri, les collines assoiffées, les terres stériles, mais nous faisons confiance au Seigneur. Et selon sa parole, nous le comprendrons mieux pas à pas. Pas à pas, quand le matin vient, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés à la maison, nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux pas à pas. Épreuves sombres de tous les côtés, nous ne pouvons pas comprendre toutes les voies que Dieu nous conduit à cette heure promise bénie, mais il nous guide avec son œil, nous suivons jusqu'à notre mort, car nous comprendrons mieux pas à pas. Pas à pas, quand le matin vient, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés à la maison, nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux, pas à pas. Les tentations, les pièges cachés nous prennent souvent au dépourvu et nos cœurs sont faits pour saigner pour beaucoup de mots d'actes irréfléchis. Nous nous demandons pourquoi l'épreuve, car nous essayons de faire de notre mieux, mais nous comprendrons mieux pas à pas. Pas à pas, quand le matin vient, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés à la maison, nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux pas à pas. Tapons-le des mains maintenant. Pas, quand le matin vient, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés à la maison, nous allons raconter l'histoire, comment nous avons surmonté, car nous le comprendrons mieux pas à pas.
I'm so thankful for that.
Je suis reconnaissant pour cette promesse. Je le crois de tout mon cœur. Que le Dieu qui est riche en miséricordieux, il n'a rien laissé en dehors de sa miséricorde. J'aurais dû être perdu et mis de côté, mais quand il s'est étiré, qu'il m'a pris. Sa grâce a réécrit ma vie.
Sa grâce a réécrit ma vie.
Mon âme perdue, mais
Je vous demanderai de rester debout, alors que maintenant nous allons entendre l'ainsi dit le Seigneur par la voix du prophète, notre pasteur, son prophète, William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse.
Veuillez vous asseoir. Ça m'a emballé quand je suis arrivé et que j'ai vu Charles Moore et les autres ici sur l'estrade, des amis que je connais depuis tant d'années. C'est vraiment un privilège de les voir ici ce soir. Je ne me sens pas à la hauteur de me tenir ici et de prêcher avec des théologiens comme ceux-là derrière moi. Et peut-être qu'ils me corrigeront quand je ferai une erreur. Je l'espère. Nous sommes très heureux ce soir d'avoir une certaine personne avec nous, Sœur Rose. Nous étions en route, j'étais avec Frère Shore et son assistant aujourd'hui pour un petit dîner. Et en route, Frère Williams disait que Sœur Rose était très malade. Alors nous sommes passés la voir un petit instant, nous nous sommes agenouillés, elle avait une forte fièvre, elle était vraiment malade. Juste quelques mots de prière et le Seigneur nous a parlé et il a dit, elle sera guérie. Elle sera là demain soir. Et la voici ce soir, assise juste ici. C'est exact. Sœur Rose, levez-vous donc un petit instant pour qu'on nous sommes reconnaissants au Seigneur. Elle était alitée. Elle disait, le diable m'a vraiment mis des bâtons dans les roues. Je suis venu jusqu'ici. Je me retrouve à plat avec ça. Un genre de maladie à la gorge et tout. Mais le Seigneur l'a fait passer au travers. Alors nous sommes contents de ça. Nous remercions notre cher Seigneur. Donc nous avons passé des moments bénis et demain soir, là, nous irons au Ramada. Et n'oubliez pas, maintenant, demain soir, ce ne sera pas ici, ce sera au Ramada. Et la convention commence le soir d'après. Il faudra vous résigner à ma présence un soir de plus, vous savez. Alors, hier soir, j'ai tellement dépassé le temps prévu. Je m'étais fait une petite promesse à moi-même qu'à partir du premier de l'an, j'allais vraiment écouter mes messages de 3, 4 ou 5 heures à peut-être une trentaine ou une quarantaine de minutes. Et comme je vous le disais hier soir, ma femme m'a fait remarquer dimanche, elle a dit, tu t'en es très bien tiré. Alors ensuite, bien sûr, il a fallu que je vienne gâcher tout ça hier soir, voyez-vous. Mais j'ai prêché 55 minutes hier soir au lieu de 30. Ce soir, en venant ici, Billy a dit, sur quoi vas-tu prêcher? J'ai dit, eh bien, j'ai quelques petites notes ici et des passages de l'Écriture, je ne sais pas. J'en ai pour 4 ou 5 messages différents. J'ai dit, je pense que je vais voir quand j'arriverai là-bas et je verrai ce qui se passe. Il a dit, tu as promis de prier pour tous les malades. J'ai dit, oui, monsieur, tu as combien de cartes? Il a dit, 200. J'ai dit, je fais mieux de commencer ce soir. Il a dit, n'oublie pas, là, tu ne pourras prêcher que 15 minutes. Il a dit, tu as pris le reste hier soir. Il va falloir que je me dépêche, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons fait une promesse que nous allions prier pour les gens qui avaient une carte de prière. Et quand on fait une promesse, il faut la tenir, bien sûr. Nous ne pouvons pas tous les faire passer dans les lignes. Je ne serais pas capable de les appeler un par un dans l'auditoire non plus. Même si le Saint-Esprit me donnait de le faire, je ne pourrais tout simplement pas tenir le coup. Ça m'épuise vraiment trop. Et mais nous sommes tous au courant de ces choses. Nous savons que Dieu est toujours Dieu. Ce n'est pas ça qui guérit. Ça, c'est seulement pour faire grandir notre foi, nous faire savoir que nous sommes dans sa présence. Et ce soir, nous allons prier pour tous les malades, tous ceux qui ont une carte de prière pour qu'on prie pour eux. Ensuite, demain soir, là-bas, au Ramada, nous essaierons d'en distribuer d'autres et nous recommencerons à prier pour les malades là-bas, étant donné que je serai encore là-bas demain soir. Et je pense que j'aurai un soir de la convention et peut-être un petit déjeuner aussi. Tout dépendra de la façon dont les choses se passeront. Il y a quelqu'un des prédicateurs qui n'a pas fait acte de présence, il n'a pas encore fait acte de présence, je ne pense pas, frère Humbert, ou est-ce que Cash Hamburger. Alors, je prononce ça tout de travers, c'est à cause de ce nom allemand. Je suppose que c'est allemand. Alors, il va peut-être falloir que je le remplace au pied levé, comme on dit, pardonnez-moi l'expression. Donc, mais nous avons passé des moments bénis dans le Seigneur. Vous tous, s'il y a des nouveaux venus ici ce soir, nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous et nous mettons notre confiance dans le Seigneur qu'il vous bénira. Ma prière, c'est qu'il n'y ait pas une seule personne malade dans cette salle quand nous repartirons ce soir, que notre Seigneur descendra dans sa grande puissance et qu'il guérira tous les malades et les affligés. Dans le temps, je recevais les gens en entretiens spéciaux pour certains cas difficiles que nous n'arrivions pas à résoudre. Et le nombre a augmenté tellement vite que ça en est venu avec le Seigneur qui bénissait constamment. Nous en avions 300 ou 400 qui attendaient et alors les gens étaient froissés parce qu'ils devaient attendre. Peut-être avec le temps dont on disposait, il leur fallait attendre peut-être un an ou deux qu'on arrive à les voir. Vous voyez, seulement entre les réunions, les voir en entretien. Et nous nous restions simplement assis à attendre devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous expose avec précision ce qu'il en était. Sans doute qu'il y a des gens assis ici ce soir qui ont été vus dans ce genre d'entretien spécial. Est-ce qu'il y en a? Levez donc la main. En entretien spécial, oui, assis là. Donc, et qui savent que c'est exact. Nous attendions simplement de voir ce que le Seigneur allait dire, ce qu'il en était. Ce cas. Et puis j'ai été obligé d'arrêter ça il y a quelque temps. J'ai dit à Billy que nous ne pourrions plus faire d'entretien particulier. Vous voyez, j'ai eu 25 ans dernièrement pour la deuxième fois et j'avance au grand galop vers la troisième. Et alors, quand on prend de l'âge un peu, eh bien, on a, pour une raison ou pour une autre, on n'arrive plus à suivre comme avant. On fait des plus petits pas. Et bien sûr, Frère Moore, lui, il n'est pas encore au courant de tout ça. Je pense que nous en avons à peu près le même âge. Il en a coulé de l'eau sous les ponts depuis la première fois que vous et moi, Frère Brown, nous sommes venus ici avec Frère Outlaw et Frère Garcia et Frère Fuller. Je me demande si ces hommes-là sont ici ce soir. Frère Garcia, Frère Fuller, Frère Outlaw, est-ce qu'ils sont là? Levez la main si vous êtes là. Oui, voilà Frère Fuller, je crois, si je ne me trompe pas. Frère Outlaw, juste ici. Frère Garcia, toutefois, je crois que lui, il n'est plus à Phoenix. Je pense que c'est exact. Il n'est plus à Phoenix, il est en Californie. Eh bien, c'était certainement une époque glorieuse. Et je crois toujours le même message que celui que j'avais à cette époque-là, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça doit faire à peu près, eh bien, Becky était bébé, ça fait à peu près 19 ans. Et maintenant, elle est une grande fille, grasse, élève, assise quelque part dans l'auditoire. Elle a 19 ans. Où es-tu, Becky? Ou qu'est-ce que je vais prendre? Je me souviens d'être arrivé en la portant dans mes bras. Franchement, j'aurais beaucoup de mal à faire ça ce soir. Je me souviens un soir à l'église de Frère Garcia, elle était toute petite, et j'ai dit, nous avons une réunion internationale ce soir. J'ai dit, je m'adresse à des gens de langue espagnole, et j'ai dit, mon épouse ici est d'origine allemande. J'ai dit, moi, je suis d'origine irlandaise, et j'ai dit, ma petite fille, c'est une indienne, c'était Becky. Alors, quand je suis sorti par la porte de derrière, il y avait une petite Mexicaine là, et elle a dit, Frère Branham. J'ai dit, oui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, vous ne trouvez pas que votre petite est un peu trop pâle pour être une indienne? Elle est blonde, vous savez. J'ai dit, elle est seulement indienne dans ses actions. Eh bien, nous sommes reconnaissants d'être de nouveau ici ce soir. Maintenant, avant de nous approcher de la parole, approchons-nous de lui, car il est la parole. Quand la parole est manifestée, c'est lui en vous. C'est ce que nous disions hier soir dans la semence de discorde. Est-ce que ça vous a plu, la bénédiction du Seigneur? Moi, je suis vraiment plu à vous apporter le message. Et nous voyons ce que sont les semences. Maintenant, y aurait-il une requête spéciale ce soir, quelque chose de spécial? Peut-être que certains d'entre vous qui vont venir dans la ligne de prière diraient, « Oh Dieu, sois miséricordieux quand je m'avancerai pour accomplir pour moi, que ma foi s'élève pour remplir les conditions. » Et peut-être que quelqu'un a un être cher qui est malade, quelque chose. Voulez-vous simplement lever la main pour que Dieu abaisse le regard, pour dire, « Maintenant, si ce, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait de regarder ça, regardez-moi donc ce qu'il y a comme besoin ici. Les frères dans le ministère, regardez-moi ça. » Voyez, maintenant, si ça me fait cet effet-là à moi, qu'est-ce que ça fait à notre Père? Certainement. Maintenant, prions. Cher Jésus, nous nous approchons maintenant du grand trône de la miséricorde par ce nom entièrement suffisant, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que ce nom du Seigneur Jésus. Et nous venons en son nom. Aussi, nous te prions, Père Céleste, de nous recevoir ce soir comme tes enfants qui croient. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Viens au secours de celle-ci ce soir pour que nous puissions croire entièrement chaque parole de Dieu ce soir pour toutes les choses dont nous avons besoin. Tu sais ce que cachent ces mains qui se sont levées. Il y a de la maladie. Il se peut que certains aient des problèmes familiaux, que certains aient des problèmes financiers, que certains soient abattus. Il se peut que certains soient rétrogrades, que certains soient pécheurs. Quel que soit le besoin, tu es largement de taille à faire face à n'importe quel ennemi. Alors nous prions, Seigneur, que ce soir nous reconnaissions que nos ennemis, tous nos ennemis, ont été vaincus jusqu'à la mort même. Et que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, qui nous a lavés dans son sang. Nous prions, Seigneur, que toute incrédulité, tout doute, toute frustration, tout ce qui n'est pas comme Dieu disparaisse rapidement de nous ce soir, pour que le Saint-Esprit puisse accomplir sa volonté dans nos cœurs. Puisse-t-il nous parler d'une manière mystérieuse? Puisse-t-il nous parler avec puissance? Puisse-t-il ressusciter ceux qui sont morts spirituellement? Redonner la santé à ceux qui sont malades et affligés? Fortifier les genoux affaiblis, les mains lassées, languissantes, qu'il y ait un temps d'allégresse. Que ce soit un début ce soir, Seigneur, que nous partions d'ici pour nous rendre à l'auberge Rabada et entreprendre une des plus grandes conventions qu'il y ait jamais eu dans cette ville. Seigneur, pendant que nous sommes rassemblés et que nous prions, tu as dit, si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. Ô Dieu, nous prions qu'il en soit ainsi ce soir. Maintenant, Père, alors que nous lirons la parole, il n'y a que toi qui puisses l'interpréter. Tu es ton propre interprète. Aussi, nous te prions d'interpréter pour nous les choses que nous lirons ce soir. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, beaucoup d'entre vous, si vous aimez noter les versets de l'Écriture que lit le prédicateur, j'aimerais vous, ce soir, si vous le voulez bien, vous faire prendre dans Éphésiens. Dimanche passé, je parlais des Éphésiens. Je disais que le livre de Josué, c'était l'Éphésien de l'Ancien Testament. Et que c'était un livre de rédemption. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. Sortir de et entrer dans. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux, mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien avoir qui vous bloque le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. C'était le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament, Josué. Alors que Moïse représentait la loi, qui ne pouvait sauver personne, mais la grâce le pouvait, et Josué, là, c'est le même mot que pour Jésus, Jéhovah Sauveur. Et donc, nous voyons que nous en sommes arrivés à un autre Éphésien, un autre Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles et tout, et nos programmes pédagogiques, que toutes ces choses sont arrivées à leur Jourdain, alors nous devons avoir de nouveau un Éphésien, nous devons avoir un exode pour sortir et entrer dans pour l'enlèvement. Maintenant, ce soir, nous allons lire dans le chapitre 2 d'Éphésiens. Je disais seulement ça pour vous permettre de trouver le passage ou de prendre le chapitre. Vous étiez morts par vos offenses et par votre péché, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par notre péché, il nous a rendus à la vie avec lui, ou nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je voudrais tirer de là quelques ou une partie du verset, mais Dieu, le Dieu qui est riche en miséricorde. Je voudrais vous faire remarquer ici le prophète, ou plutôt l'apôtre Paul, ce qu'il dit là, il vous a rendu à la vie, vous qui étiez autrefois morts. Il vous a rendu à la vie, vous qui étiez autrefois morts, morts par votre péché et par vos offenses, marchant selon le train de ce monde, le désir de la chair et accomplissant le désir de nos pensées. Qu'est-ce qui a causé ce changement, voyez? Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'à un moment donné, nous étions morts pour être ensuite vivifiés. Vivifiés, ça veut dire rendus à la vie. Il y a un changement de la mort à la vie. Il n'y a rien qui puisse arriver à une personne qui soit plus glorieux que de passer de la mort à la vie. Un homme, s'il était mourant physiquement et qu'il soit guéri physiquement, ce serait quelque chose de glorieux, mais il ne peut rien lui arriver de plus glorieux que d'avoir été mort spirituellement et que Dieu l'ait rendu à la vie. Vous étiez à un moment donné, autrefois, mort. Vous étiez mort, et même bien des gens ici ce soir, à un moment donné, vous pouvez regarder en arrière et reconnaître que vous étiez mort. Mais maintenant, comment se fait-il que vous ne soyez pas mort ce soir, comme vous l'étiez à ce moment-là? C'est dans cet état-là que vous méritiez d'être, parce que vous étiez un pécheur. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, c'est là le point. Dieu, qui était riche, tout ce que nous étions là, mais Dieu, voilà précisément ce qui a opéré le changement. Dieu qui est riche en miséricorde. Oh, je suis si content de ça, qu'il soit riche en miséricorde. S'il était seulement riche en argent, s'il était seulement riche en biens matériels, il l'est effectivement. Mais malgré tout, ce qu'il y a de plus glorieux, c'est qu'il soit riche en miséricorde. Oh, quelle parole remarquable que celle-là! Nous étions autrefois morts. L'autre soir, nous parlions de ce que la semence doit mourir. Et tout ce qui entoure ce germe de vie doit non seulement mourir, mais pourrir. Si ça ne pourrit pas, il ne pourra pas y avoir de vie. Et pourri, c'est complètement disparu. C'est terminé. Et c'est seulement quand nous en serons arrivés au point où nos propres idées et nos propres pensées ne seront plus là du tout, qu'elles seront tombées en pourriture, que le germe de vie pourra commencer à vivre. Maintenant, nous allons peut-être, je vais peut-être introduire juste un peu de doctrine ici, si vous n'y croyez pas, d'accord, ça ne fait rien, moi j'y crois. Je crois que l'homme, quand il naît dans ce monde, quand vous êtes un petit bébé, né dans ce monde, que vous n'auriez pas pu être ici sans la préscience de Dieu, parce qu'il est infini et qu'il sait toutes choses. Et quand ce petit bébé naît dans ce monde, il y a quelque chose dans ce bébé-là. Si un jour il doit avoir la vie, il y a un petit quelque chose à l'intérieur de lui, de cet enfant, à ce moment-là, et dont il finit par prendre conscience, tôt ou tard. Cette petite semence est à l'intérieur de lui. Maintenant, si vous prenez les Écritures, le déclarent en termes clairs. Alors, si vous avez la vie éternelle ce soir, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé. Parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Nous avons toujours existé. Et ce qui fait que nous existions, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui soit éternel. C'est comme Melchisédek qui a reçu la dîme de la main d'Abraham. Et cela a été compté à son arrière-petit-fils, Lévi, qui était encore dans les reins d'Abraham. Il a payé la dîme car il était encore dans les reins d'Abraham quand celui-ci a rencontré Melchisédek. J'ai l'intention de parler de ça là-bas dans l'autre salle le matin. Qui est ce Melchisédek? Maintenant, remarquez ça. Bien longtemps avant, Dieu savait que ce garçon allait venir. Il savait toutes choses. Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé, vous ne vous en souvenez pas, parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans ses pensées, votre nom même. S'il n'a jamais été dans le livre de vie, il a été mis avant la fondation du monde. Il savait ce que vous étiez. Je dis ceci dans le seul but, non pas de vous embrouiller dans votre doctrine, mais de redresser la chose pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte, de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas devenir, mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez toujours été les fils de Dieu, voyez? En effet, quand Dieu vous avait dans ses pensées au commencement, forcément que vous, qu'une partie de vous, votre vie, qui est en vous maintenant, qu'elle devait être avec Dieu avant que, eh bien, avant même qu'il prenne une forme physique ici sur terre, avant qu'il y ait quoi que ce soit, sauf Dieu, vous étiez un de ses attributs. Il savait quel serait votre nom, il savait de quelle couleur seraient vos cheveux, il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous, quand vous étiez pécheur, beaucoup d'entre vous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, vous vous promeniez, et il y avait certaines choses qui, ça ne troublait pas les autres enfants, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Il y avait Dieu quelque part, et pourtant vous étiez un pécheur. Vous vous en souvenez? Certainement. Or, qu'est-ce que c'était ça? C'était une petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'Évangile. Peut-être que vous alliez à l'église, vous broutiez ici et là, et vous passiez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous aviez à être une partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été, la semence avait toujours été en vous. La parole a vu la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde, a vu la parole et vous êtes venu à elle. C'est comme mon histoire du petit aiglon, de ce petit aiglon qui était éclos sous une poule. Et le petit marchait avec les poulets. La poule gloussait et lui, il ne comprenait pas son gloussement. Et les petits poulets, les aliments dont il se nourrissait dans la basse-cour, il ne comprenait pas ça, comme il arrivait à faire ça. Mais il y avait quelque chose en lui qui était différent, semble-t-il, de ce poulet. C'est parce que, dès le départ, il était un aigle. C'est exact. Un jour, sa maman est allée à sa recherche, et quand elle a entendu ce cri de l'aigle, c'était différent du gloussement de la poule. C'est la même chose pour chaque croyant né de nouveau. Vous aurez beau entendre toute la théologie que vous voudrez, toute la discorde faite de main d'homme, mais quand la parole émet sa lumière là-bas, alors il y a quelque chose qui s'empare de vous. Vous venez à elle, vous qui étiez autrefois mort par votre péché, cette vie-là, il vous a rendu à la vie. Il faut d'abord qu'il y ait une vie à ranimer. Dieu, par sa prescience, il savait toutes choses. Et nous étions prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Vous qui étiez autrefois mort par votre péché et par vos offenses, dans lesquelles nous nous trouvions tous autrefois, mais il nous a rendus à la vie. Regardez Paul, alors que Paul était un grand théologien, mais quand il s'est retrouvé face à face avec la parole, Jésus, cela l'a rendu à la vie. Il a pris vie très vite, parce qu'il était destiné à être cela. Là, il était une partie de la parole, et quand la parole a vu la parole, c'était sa nature. Tout ce gloussement des poules dans les églises orthodoxes n'a eu aucun effet sur lui. Il avait vu la parole. C'était une partie de lui. Il était un aigle. Il n'était pas un poulet. Il était seulement dans la basse-cour avec eux. Mais il était un aigle dès le départ. J'ai entendu une autre petite histoire semblable à celle-là. J'espère que ça n'a pas l'air sacrilège au sujet d'un petit canard qui était né sous une poule une fois. Il ne comprenait pas. Il avait l'air bizarre, le petit, un drôle d'oiseau. Il ne comprenait pas la poussière et tout. Il jouait dans la basse-cour, mais un jour, la vieille poule a laissé sortir sa couvée derrière la grange et il a flairé l'eau. Eh bien, il a foncé vers l'eau à toute vitesse. Pourquoi? Il n'avait encore jamais été sur un étang, il n'avait jamais été dans l'eau, mais il était un canard dès le départ. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est en prendre conscience. C'est la même chose pour le croyant. Il y a quelque chose en lui. Quand il se retrouve face à face avec Dieu, il prend conscience de ce qu'il est. Cette semence est en lui et elle reprend vie. Oh, c'est vrai. Alors il s'envole, loin des choses du monde. Elles sont mortes pour lui. Oh, je me rappelle, nous avons tous eu une vie autrefois dans ces choses du monde. Mais dès que nous nous sommes emparés de la vraie chose, quelque chose qui nous a rendu à la vie, il y a une petite semence qui a pris vie, et alors toutes les choses du monde ont pourri à l'instant même. Nous n'avions plus aucun désir. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'adorateur, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché, plus aucun désir de péché. La question du péché s'est réglée. Vous devenez une partie de Dieu en Christ. Christ est mort pour vous racheter. Or, pensez donc à tout ce que nous aurions été sans Dieu. Mais Dieu, par sa riche miséricorde, il nous a rachetés ce soir. Où aurions-nous été ce soir sans la riche miséricorde de Dieu sur nous? À un moment donné, le monde était tellement rempli de péchés. L'homme avait étendu la corruption sur la terre au point que Dieu s'affligeait même d'avoir créé l'homme. La tête entière n'était qu'une plaie vive, le corps entier, et Dieu s'affligeait même d'avoir créé l'homme. Alors il a dit, « Je ferai périr l'homme que j'ai créé. » Il les fera périr parce qu'il n'y a rien que de la corruption en lui. Et la race humaine tout entière aurait été anéantie à ce moment-là. Mais Dieu, riche en miséricorde, n'a pas permis que l'innocent périsse avec le coupable. Alors il s'est retiré et il a pourvu d'un moyen pour ceux qui voulaient entrer. Qui voulait faire ce qui est bien. Il a pourvu d'un moyen de miséricorde pour ceux qui désiraient la miséricorde. Il a préparé une arche. Autrement dit, il a mis des ailes à ses aigles pour qu'ils puissent s'envoler au-dessus du jugement et ne pas se noyer avec les poulets. Mais donc, il a pourvu d'un moyen d'échapper au jour de Noé. C'est ce qui l'a amené à faire cela, à pouvoir. C'est parce qu'il était riche en miséricorde. Mais une fois qu'il a pourvu d'un moyen pour les gens et que ceux-ci le refusent, or, la raison pour laquelle ils le refusent, c'est qu'il n'y a rien en eux pour le recevoir. Il n'y a rien pour le recevoir. Ma mère disait, on ne peut pas faire sortir du sang d'un navet parce qu'il n'y a pas de sang dans un navet. Donc, s'il n'y a aucune forme de vie à l'intérieur pour recevoir cela, alors on ne peut pas le recevoir. C'est pour ça que les pharisiens pouvaient regarder Jésus bien en face et l'appeler Belzébul. C'est parce qu'il n'y avait rien en eux qui puisse le recevoir. Mais tous ceux que le Père m'a donnés, il a dit, ils viendront à moi. Ce leur sera présenté d'une manière ou d'une autre. Parfois, on peut parler aux gens dans la rue, leur parler du Seigneur et ils vous riront au nez. Eh bien, nous devons le faire de toute façon. Mais écoutez, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. C'est Dieu qui doit attirer. Il faut qu'il y ait une vie, et tous ceux qu'il m'a donnés viendront à moi. Il a pourvu d'un moyen pour ceux qui veulent être rachetés. Il a pourvu d'un moyen pour ceux qui veulent être guéris. Et donc, d'avoir fait cela, c'est ce qui le rend riche en miséricorde. Et il a toujours été riche en miséricorde. Forcément que si vous refusez ceci, il ne reste plus que le jugement, parce que le péché doit être jugé. Pharaon, quand il est allé dans la mer comme imitateur, en voyant qu'il pouvait s'y avancer comme Moïse, Moïse avec son armée et Pharaon avec son armée, semble-t-il que tous les deux auraient dû périr dans la mer. Mais Dieu, riche en miséricorde, a pourvu d'un moyen pour que les enfants hébreux puissent s'échapper. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient le sentier du devoir, ils suivaient la parole. Or, le seul moyen d'obtenir miséricorde, c'est ça, c'est de suivre les directives que Dieu nous a données pour que nous les suivions. C'est seulement là qu'il peut exercer sa miséricorde, c'est quand nous suivons ce qu'il a dicté. Comme ce petit débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec un ministre qui disait que j'enseignais une doctrine apostolique pour ce jour-ci. Je crois que j'en ai parlé il y a un soir ou deux ou à un moment donné de ce qu'il avait dit. Vous essayez d'introduire dans cette heure-ci une doctrine apostolique. Il a dit l'âge apostolique a pris fin avec les apôtres. Je lui ai demandé, eh bien, croyez-vous la parole? Il a dit oui. J'ai dit, dans Apocalypse 22, 18, il est dit que quiconque retranchera un seul mot de ceci, ou y ajoutera un seul mot, pas deux mots, là, un seul mot, en retrancher un seul mot, il a dit, je crois ça. J'ai dit, dans ce cas, moi, je peux vous dire, quand l'âge apostolique a été donné, quand les bénédictions apostoliques ont été données à l'Église, maintenant, vous dites-moi où Dieu les a retirés de l'Église par la parole. Vous ne pouvez pas le faire. Ça n'y est pas. J'ai dit, maintenant, souvenez-vous, Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a inauguré l'âge apostolique. Il leur a dit à tous, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, si vous voulez écouter le gloussement d'une poule dénominationnelle quelconque et vivre là-bas dans les choses du monde, alors ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça, c'est la parole. Celui qui veut peut venir. Et si vous en avez la volonté, vous devriez venir. Mais si vous n'en avez pas la volonté, alors vous êtes dans un triste état. Mais si vous avez la volonté de venir, venez suivre l'ordonnance de Dieu. Et il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. À un moment donné, j'étais jeune et maintenant je suis vieux. Je ne l'ai jamais vu manquer à sa parole. En effet, il peut tout faire sauf faillir. Il ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas. Il est impossible à Dieu de faillir tout en étant Dieu. Il doit et le faire. Alors, ce que l'armée de Pharaon a essayé de faire, c'est d'imiter, puisqu'il n'était pas appelé et qu'il ne possédait pas cette vie. À l'intérieur, la promesse n'avait pas été faite à Pharaon. La promesse d'un pays promis ne lui avait pas été faite. Et un imitateur, quand il essaie de suivre un vrai croyant qui lui a été appelé à ça, il ne fait qu'en produire une grotesque caricature. C'est ça que le problème de notre système religieux d'aujourd'hui. Il y a trop de gens qui essaient d'imiter le Saint-Esprit, trop de gens qui essaient d'imiter le baptême, trop de gens qui essaient d'imiter l'âge apostolique. C'est pour les croyants et pour eux seuls. Dieu a pourvu d'un moyen, lui qui est riche en miséricorde, pour que ses enfants ne périssent pas. Il a pourvu d'un moyen pour eux. Donc, Pharaon, en essayant de continuer à les poursuivre, il s'est noyé dans les eaux mêmes qui ont sauvé Moïse et son groupe. Or, Moïse n'a pas été noyé. Parce que Dieu est riche en miséricorde envers ceux qui suivent la voie qu'il a pourvue. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce soir, ces gens qui ne croient pas à la guérison divine, ces gens qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, comment peuvent-ils recevoir quoi que ce soit? Dieu est riche en miséricorde envers ceux qui sont prêts à le suivre. Lui, pas un credo, mais Dieu. Dieu est la parole. Il a été fait chair et a habité parmi nous. Là, pour qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu, le corps, Jésus, c'était le corps de Dieu, un attribut. Moïse l'a vu passer, l'a vu de dos. Aucun homme n'avait vu sa face. Mais maintenant, nous l'avons vu. Nous l'avons contemplé. Nous le voyons, lui, le sacrifice. Or, voyez-vous, il était un attribut de Dieu manifesté, la parole. C'est ce qu'il était. Et tout croyant qui vient à Dieu devient l'attribut de Dieu, de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Voyez? C'est exact. Dieu, riche en miséricorde, n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. Il est riche en miséricorde. Maintenant, nous voyons que Dieu a été très miséricordieux envers Moïse là-bas, dans la mer morte, ou plutôt dans la mer rouge là-bas. Ensuite, il a dit, là, dans Exode 19:4, il a dit, « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle amenés vers moi. » Porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Il y avait aussi d'autres hommes au milieu de la mer là-bas qui essayaient d'imiter. Mais qu'en est-il? Il les a portés sur des ailes d'aigle. Or, Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Qu'est-ce que c'était? Moïse était son messager. Il suivait Moïse et c'était ça, les ailes d'aigle qui les portaient parce qu'il avait le message de Dieu avec lui. Et c'est ce que les gens suivaient. En suivant Moïse avec son message de délivrance, c'est Dieu qu'ils suivaient. Et la Bible dit, « Ils ne périrent pas avec eux, ceux qui n'ont pas cru. En effet, Dieu a été riche en miséricorde envers eux parce qu'ils suivaient ses commandements. » Dieu veut que nous suivions ses commandements. Nous pourrions dire la même chose de Corée et de Dathan et de leur bande d'incrédules qui ont essayé d'imiter. Ils ont essayé d'infliger quelque chose au programme de Dieu. Ils n'aimaient pas l'idée d'un programme limité à un seul homme. Ils n'aimaient pas ça. Il leur fallait avoir quelque chose à faire. Corée a dit, « Voyons, il y a d'autres hommes que toi qui sont saints, Moïse. Tu agis comme s'il n'y avait que sur la terre, plutôt comme s'il n'y avait que toi sur la terre. » Il dit, « Tu ne devrais pas faire ça. Il y a d'autres hommes ici. » Moïse savait que c'était à lui de conduire les enfants jusque dans le pays promis, parce que la promesse lui avait été faite à lui. Il devait les conduire au pays promis. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est ici pour confirmer la parole de Dieu. Et c'est ça, l'aile d'aigle qui doit nous porter. Pas une théologie faite par l'homme, mais c'est porté sur les ailes de l'aigle que nous devons nous rendre au pays promis. Et là, il allait faire venir une bande de poulets. C'est ce que Corée envisageait, vous savez, pour qu'ils se présentent là et qu'ils imitent l'aigle. Et à ce moment-là, Dieu a dit, « Sépare-toi d'eux. » Et il a englouti le monde. Il aurait englouti toute la chose, toute la création. Mais Dieu a été riche en miséricorde envers ceux qui essaient de suivre sa parole. Toujours. Dieu est riche en miséricorde. Beaucoup d'entre eux se sont rangés du côté de Moïse. Et Dieu a ouvert la terre et a englouti l'incroyant. Et l'incroyant périra toujours. Ceux qui n'ont pas cru, bien qu'ils soient sortis et aient marché pendant un bon bout de temps, mais Jésus a dit, ils sont tous morts. Mort, c'est l'anéantissement. Ils sont morts. Pensez un peu à ces gens-là. Ils étaient sortis. Ils avaient vu les miracles de Dieu. Ils avaient vu la main puissante de Dieu. Ils avaient savouré la manne. Et ils sont allés écouter un homme nommé Balaam qui a perverti le moyen pourvu par Dieu par son enseignement qui était contraire à la parole. Nous sommes tous frères, alors rassemblons-nous tous. C'est un autre système à la Balaam qui est en train de se monter aujourd'hui. Rassemblons-nous tous. Ça ne fonctionnera pas. Marchons avec l'aigle, l'aigle Jéhovah. Vous êtes des aiglons. De tout le groupe, seulement trois ont été sauvés, Moïse, Caleb et Josué. Tous les autres ont péri dans le désert. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6. Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas permis qu'ils périssent, parce qu'avec les autres, les incroyants, ils ont tous péri en plein désert et ils sont morts. Dieu a sauvé Moïse et les croyants, les aigles, parce qu'il avait égard à sa parole. Et aujourd'hui, mon ami, le seul moyen pour nous de trouver grâce devant Dieu, Dieu est riche en miséricorde aujourd'hui, mais nous devons respecter ce qu'il en a dit. Vous ne pouvez vraiment pas prendre ce que quelqu'un d'autre a dit, vous devez prendre ce que Dieu a dit. Il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Aujourd'hui, on nous dit tout ce que vous avez à faire à bien des endroits, c'est d'adhérer à l'Église, avoir un credo ou quelque chose comme ça, ou réciter une prière, mettre votre nom dans le livre, ou être aspergé ou baptisé d'une certaine manière, ou quelque chose comme ça, c'est tout ce que vous avez à faire. Mais c'est faux! Peut-être un aigle de Dieu, vous devez suivre la parole jour après jour. Vous devez vous nourrir de la parole continuellement. Or, voilà que nous les retrouvons après ça de nouveau en train de murmurer, la foi affaiblie après que Dieu leur avait fait miséricorde. Nous les retrouvons en train de murmurer contre Dieu et d'avoir fait ça, ils se mouraient de morsures de serpents. Eh bien, il l'avait bien mérité, certainement. Toute personne qui se méprendrait sur la parole de Dieu et qui ferait ces choses qu'ils ont faites, ils méritaient la mort, ils le désirent, le méritaient tous de mourir dans le désert. Mais quand ils ont été tellement malades que ni le docteur Moïse lui-même, ni personne ne pouvait rien y faire et qu'ils mouraient par milliers, mais Dieu, riche en miséricorde, il a pourvu d'un moyen d'échapper pour ceux qui croiraient en lui. Il a fait un antidote contre ça en élevant un serpent d'airain. Dieu, dans sa riche, Dieu a pourvu d'un moyen d'échapper pour que ses enfants qui croient puissent être guéris. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas, à tout ce que vous envisagez. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant. Et il est riche en miséricorde. Il veut vous aider. Après, les gens ont péché en prenant la chose même que Dieu leur avait donnée pour qu'elle leur serve d'expiation, le serpent d'airain qui représentait le péché déjà jugé, et ils ont idolâtré ce don-là. Et ça, c'était encore un péché. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir deux ou trois ou quatre dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne partagera sa gloire avec rien d'autre. Il est le seul Dieu, voyez-vous? Donc, et les païens, eux, ils ont de nombreux dieux. Nous avons le seul Dieu. Il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Pas plus qu'il ne permettra que quoi que ce soit devienne une idole devant lui. Bien qu'il ait pourvu d'une expiation pour le peuple et que c'était la parole de Dieu, c'était juste, mais quand ils se sont mis à idolâtrer cela, alors ils se sont attirés des ennuis. Or, c'est exactement la même chose, je crois, qui est arrivée à nos églises, à nos âges de l'Église. Dieu nous a envoyé le message, celui de Martin Luther avec son message, de John Wesley, le message pentecôtiste, mais qu'est-ce que nous en avons fait? Exactement la même chose qu'eux, avec ce serpent d'airain, nous l'avons idolâtré. Je fais partie de ceci, je fais partie de cela. Voyez-vous, vous faites partie de quelque chose sans avoir la sincérité qui se rattache à une adoration sainte et la vraie parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, il nous est dit dans la Bible que le prophète a pris cette idole et qu'il l'a détruite. Alléluia! Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui vienne détruire l'idole des dénominations qui s'imaginent qu'elles iront au ciel parce qu'elles font partie d'un credo ou d'une dénomination quelconque. Il faut qu'elles soient détruites et brûlées, mises au rebut. Dieu est plein de miséricorde. Il est riche en miséricorde. Au jour où nous aurions tous été là-bas, au milieu du chaos, des ténèbres, mais Dieu, riche en miséricorde, nous a envoyé le vrai, le véritable Saint-Esprit avec sa propre interprétation à cela, ici même, dans cette salle, chaque soir. Dieu, riche en miséricorde, quel être merveilleux nous trouvons en lui. Oui, monsieur. Donc, d'après eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était simplement d'aller vers ce serpent ou cette petite chose que Dieu avait faite là-bas, avait fait faire à Moïse et lui avait fait accrocher à une perche. Et il pourrait être guéri sans aucune sincérité. Il se mettait simplement là et il le regardait. Alors, ils se sont mis à l'idolâtrer. Et Dieu a envoyé un prophète et il l'a détruit. Or, tous ceux qui ont refusé de regarder le serpent dans le désert, ils ont péri. Maintenant, Dieu pourvoit d'un moyen, mais si vous refusez de le regarder, si vous restez de l'autre côté de la rue, si vous vous accrochez à un credo quelconque et que vous recevez de regarder directement dans la parole pour voir si oui ou non, c'est juste. Tous ceux qui ont refusé de regarder, ils ont péri. Et Dieu est un Dieu qui ne change jamais. Tous ceux qui ont refusé de regarder ont péri. C'est pareil aujourd'hui même chose. Donc après, les gens ont péché et comme ils l'ont toujours fait, ils ont fait leur idole et en essayant de recevoir la guérison sans sincérité, et ils faisaient partie de quelque chose et comme nous le faisons aujourd'hui. Et maintenant, nous voyons là, la différence c'était que Dieu, c'était une expiation valable, un signe valable pour cette époque-là. À cette époque-là, c'était très bien. Mais ça ne devait être que pour cette époque-là, pour ce trajet-là. Ça ne fonctionnerait que pour ce trajet-là. Et le message que Martin Luther a apporté, celui de la justification, c'était très bien pour l'âge de Luther. Il est allé jusque-là, pas plus loin. Celui de la sanctification, c'était bien dans l'âge de Wesley. Il est allé jusque-là, pas plus loin. Ensuite, nous sommes entrés dans l'âge pentecôtiste. Et la restauration des dons, c'est quelque chose de très bien. C'est bien dans cet âge-là. Mais maintenant, nous allons plus loin que cela. Nous avons dépassé cela. Aussi sûr qu'il y a un monde, nous devons être plus que cela. En effet, nous en avons fait la même chose qu'eux avaient fait à l'époque. Nous en avons fait une idole. Je fais partie de ce groupe-ci, je fais partie de ce groupe-là. Dieu enverra quelqu'un qui démolira la chose et la mettra en morceaux. Et il la confirmera sa parole, la parole entière. Remarquez, gloire à Dieu. Or, nous voyons que c'est bien vrai. Dieu riche en miséricorde. Ensuite, Après que le prophète a détruit ça, il ne leur restait plus aucun signe de guérison, d'expiation, parce que leur idole avait été détruite. Mais Dieu, riche en miséricorde, leur en a fait un autre. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a agité l'eau de la piscine au temple et beaucoup de gens venaient et étaient guéris en entrant dans cette eau. Jésus est allé à cette même piscine et il avait un homme qui était couché là depuis bien des années. Il attendait le mouvement de l'eau. Vous voyez, Dieu, riche en miséricorde, bien qu'il ait idolâtré cette chose-là, bien que le prophète ait été obligé de la démolir, Dieu a pourvu d'un autre moyen pour eux, parce qu'il est riche en miséricorde. Il veut qu'ils soient guéris. Aussi, il a pourvu d'un moyen pour leur guérison. Bon, donc, ça a continué. Le monde est devenu toujours plus rempli de péchés, toujours plus, tout le temps. Finalement, le monde était tellement rempli de péchés que Dieu aurait pu le détruire. Il a dit dans Malachie 4, « De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Il aurait pu le faire, juste la question. Mais alors, Dieu, riche en miséricorde, il a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. En effet, il a dit, « Comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans le même but. » Lui, l'expiation, c'est tout ce que nous pouvons revendiquer, l'expiation. Les choses que Jésus a acquises par son sang, c'est ce que nous pouvons revendiquer. Et la Bible dit, « Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Voilà ce que nous pouvons revendiquer parce que c'est ce que l'expiation que nous défendons a acquis pour nous. Dieu, riche en miséricorde. Cette expiation-ci devait être une expiation éternelle parce qu'il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu sous la forme d'une chair de péché pour faire une expiation éternelle. Il a souffert dans la chair et il a fait l'expiation. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer cette expiation. Alors qu'aucun serpent d'airain ni aucun autre trouble ne pouvait le faire, tout cela annonçait cette expiation parfaite. Dieu, riche en miséricorde, a accompli ceci. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est en ce jour-ci que nous vivons, on a traversé tous les âges de l'Église et on a trouvé toutes les explications possibles pour éliminer cela. Les théologiens que nous avons aujourd'hui ont carrément perdu de vue ce côté-là. Ils trouvent toutes les explications possibles pour confiner cela à un autre jour, à un autre âge, pour quelque chose d'autre. Il y a très longtemps, à une autre époque reculée, et la guérison divine, c'était pratiquement une affaire du passé. On ne trouvait, pour ainsi dire, plus personne qui y croyait. On en riait, pas plus tard qu'il y a une vingtaine d'années, on en riait. Les pentecôtistes s'en étaient pratiquement complètement éloignés. Dans les premiers jours, au début, ils l'avaient, mais ils s'en étaient éloignés. Regardez ce qu'ils ont fait. Voilà qu'ils étaient partis en grand. Dans leur dénomination, ils s'étaient dépêchés de se faire chacun un credo et tout, sans au lieu d'accepter la lumière. À mesure que la lumière entrait, ils s'étaient organisés, ils s'étaient forgés des credos avec chacun qui arrive avec sa doctrine et qui se tient avec cette doctrine-là. Et alors, ils étaient tellement absorbés là-dedans que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans l'Église. Tout cela est tout simplement devenu une autre idole, comme un serpent d'airain. La chose s'est transformée en idolâtrie. Chacun disait, je fais partie de ceci et je fais partie de cela. C'était de l'idolâtrie. Nous étions dans un beau millimélo au temps de la fin. Mais Dieu, riche en miséricorde, a renvoyé le Saint-Esprit sur nous et il confirme sa parole ce soir, comme il l'avait promis. Dieu avait promis qu'il ferait ces choses. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Or, nous voyons là la manière dont il avait promis qu'une chose se produirait dans chaque âge. Et nous voyons que la chose s'est produite exactement telle qu'elle, selon ce qu'il avait dit qu'il ferait, parce qu'il est riche en miséricorde, qu'il fait toujours miséricorde, et ce, pour accomplir chaque parole qu'il a promise, il doit forcément le faire, et toujours pour être Dieu. Il agit toujours ainsi. Sa parole s'accomplit toujours en son temps. Sa semence qu'il a mise en terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a placée ici dans la parole et c'est une semence. Et chaque fois que l'âge en question arrive, cette semence-là mûrit et alors il y a une réforme. C'est ce qu'il a promis, c'est ce qui se produit. Or, nous ne méritions pas ces choses. Nous ne méritions pas ces bénédictions de Dieu. Parce que nous étions partis en quête des choses du monde. Nous nous étions jetés dans l'égarement de Caïn. Caïn qui a conçu un bel hôtel et une belle église et qui mettait des fleurs dessus en pensant que c'était exactement ça. C'était des pommes ou des poires ou des grenades ou quelque chose que son père et sa mère avaient mangé dans le jardin d'Éden. C'est à cause de ça qu'il avait été chassé. Alors c'est ça qu'il a offert à Dieu. Et Dieu a refusé. Mais Abel, par la foi, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et aujourd'hui, la Bible dit dans Jude qu'ils se sont jetés dans la voie de Caïn, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Voyez-vous, ils se sont jetés dans la voie de Caïn, ils construisent des hôtels, ils construisent des églises, des dénominations, ils les ornent bien, elles sont grandes, avec de plus de membres que les autres, ils font entrer toutes sortes de choses, tout ce qui arrive, qui a sauté en l'air, qui a donné une poignée de main, qui a été baptisé d'une certaine manière, qui a parlé en langue, ou qui a couru partout dans la salle, ils mettent le nom de ces gens-là dans le livre, et ensuite ils attaquent la vérité vraie qui est prêchée, ils la nient. Comment est-ce possible? Remarquez, nous étions dans un beau millimélo. Remarquez, la Bible dit ils ont suivi la voie de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils se sont perdus par la révolte. La révolte de Corée, qu'est-ce que c'était? Mais t'imagines-tu que tu es le seul homme qui soit saint? Mais Dieu, nous sommes tous saints. Toute l'Église est comme ça. Nous devrions tous nous rassembler. C'est ça que nous devrions faire. C'est là qu'ils se sont perdus en faisant ça. Et nous le méritions vraiment. Nous méritions d'être dans cet état-là. Mais Dieu, riche en miséricorde, nous a retirés de ce chaos. Il nous a ouvert les yeux là-dessus avant que la chose arrive. Riche en miséricorde. Il nous a envoyé un réveil de guérison divine, une nouvelle venue de la puissance de Dieu. D'après l'histoire, aucun réveil n'a jamais duré plus de 3 ans. Ce réveil-ci s'est poursuivi pendant 15 ans. C'est un feu qui a brûlé encore et encore partout dans le pays, dans le monde. Pourquoi? Parce que nous le méritions. Dieu riche en miséricorde. Ce n'est pas parce que nous le désirions, ou plutôt parce que nous le méritions. Pensez un peu à ce qui a été accompli grâce à ce réveil. Je pense à l'une de vos sœurs de Phoenix ici, que beaucoup d'entre vous connaissent, Mme Hattie Waldrop. Elle avait un cancer du cœur. Elle était dans la ligne de prière ici quand Frère Moore et moi sommes venus la première fois, il y a peut-être 15 ou 18 ans de ça. Elle se mourait d'un cancer du cœur. Il y a déjà longtemps qu'elle aurait dû être morte. Mais Dieu, riche en miséricorde, a fait descendre sa puissance sur elle. Il lui a sauvé la vie et elle est vivante aujourd'hui. Dieu, riche en miséricorde, le sénateur Upshaw, un grand homme, je pense qu'il a été président ou quelque chose de la Baptiste, de la Southern Baptist Convention à un moment donné, ou vice-président ou quelque chose comme ça. Il a fait tout. C'était un brave homme. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait consulté tous les médecins. Personne ne pouvait l'aider. Il était forcé de rester dans cet état-là. Des prédicateurs avaient prié pour lui. On lui avait versé un gallon d'huile sur la tête avec tous ses prédicateurs de partout qu'il avait oint. Un soir, à Los Angeles, en Californie, en m'avançant vers la chair, je regardais. Il y avait une série de fauteuils roulants, peut-être 2 ou 3 fois ce qu'il y a ici, tout le long des allées, jusqu'au fond. Et là-bas, il y avait un brancard avec une petite fille de couleur dessus. Une petite fille noire et sa mère était assise près d'elle. Mon frère était en train de former la ligne de prière. Je regardais, je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai vu un médecin qui portait des lunettes à monture d'écaille. Il était en train d'opérer une petite fille noire pour une affection de la gorge. Elle a été frappée de paralysie. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, où est cet enfant? Je ne la voyais pas. Au bout d'un moment, tout au fond, sans espoir, une charmante petite fille d'environ 7 ou 8 ans, condamnée à être paralysée jusqu'à la fin de sa vie, et sa mère était là, à genoux, en train de prier. Alors j'ai dit, ce médecin a opéré votre petite fille, et je l'ai décrit. Elle a dit, c'est vrai, monsieur. Alors, elle a essayé d'amener sa petite jusqu'à l'estrade. Ils lui ont dit de ne pas le faire. Ils ont essayé de la calmer. À peu près au moment où ils ont réussi à la calmer, je me suis dit, eh bien, nous aurons l'occasion de prier pour elle. Au bout de quelques minutes, il se peut qu'il y ait des gens ici qui étaient là ce soir-là. Je parcourais l'auditoire des yeux et j'ai vu cette petite fille qui marchait sur une espèce de petite route étroite. Elle avait une poupée dans ses bras et elle berçait la poupée. Peu importe combien le médecin avait dit qu'elle serait paralysée jusqu'à la fin de sa vie, Dieu, riche en miséricorde, a fait descendre le Saint-Esprit par une vision et cette petite fille s'est levée de là. Et elle et sa mère, en se tenant par la main, elles ont descendu l'allée en louant Dieu. Il y avait un homme âgé qui était assis tout au fond, le sénateur Upshaw. Beaucoup d'entre vous connaissent son témoignage. Il avait été un brave homme. Il avait essayé toute sa vie. Il y avait 66 ans qu'il était infirme dans un fauteuil roulant. On devait le pousser jusqu'à son lit, des béquilles sous les bras, dont il se servait pour marcher, condamné à ne plus jamais marcher normalement. Il était assis là, à observer cela. Tout à coup, j'ai regardé au loin. J'ai eu une vision. Le voici qui venait. Il marchait au-dessus de l'auditoire, la tête inclinée. Il marchait aussi bien que n'importe qui. Je ne savais pas quel homme qu'il s'agissait. J'ai dit, il y a un homme important ici, au fond. Quand il était petit garçon, il est tombé de la charrette sur un support à foin et il s'est blessé au dos. On a percé des trous dans le plancher pour éviter que la vibration, quand les gens marchaient, donne des coups à son dos. J'ai dit, il devient un homme important et il devient de plus en plus important. Il est assis dans un grand cercle à la Maison-Blanche. Alors un homme est venu me dire, il a dit, c'est le sénateur Upshaw. Avez-vous déjà entendu parler de lui? J'ai dit, je ne connais pas. Et là, il a envoyé un petit micro-baladeur là-bas. Ils ont échangé une conversation. Alors je me suis mis à regarder autour et j'ai vu le vieux sénateur qui venait. Il marchait vers moi dans une vision de façon tout à fait parfaite et normale. Dieu, riche en miséricorde, l'a retiré de ce fauteuil roulant et l'a marché sans béquille jusqu'au jour de sa mort. Dieu, riche en miséricorde, alors que les médecins avaient échoué, alors que la science avait échoué, alors que tout le reste avait échoué, Dieu a été riche en miséricorde envers le sénateur Upshaw. Je pense à moi-même. Quand j'étais petit garçon, je me souviens que aujourd'hui, les gens me traitent de misogyne. La raison de ça, c'est parce que j'ai vu tant d'immoralité chez les femmes quand j'étais gamin. Je les détestais. Je ne les déteste plus maintenant parce que je sais qu'il y en a des bonnes. Mais je me souviens, il y avait tant de pourriture, d'immoralité. Et je me disais, oh, jamais je n'irai parmi les gens. Je n'ai pas d'instruction, alors je ne m'instruirai pas. Un petit gamin assis là, pas même une chemise sur le dos, avec mon manteau attaché en haut, comme ceci, avec une épinglette de sûreté, il faisait très chaud. L'institutrice disait, « William, tu n'as pas chaud avec ton manteau sur le dos? » J'ai dit, « Non, madame, j'ai plutôt froid. » Et elle me faisait aller près du poêle. Elle mettait du bois dans le poêle et j'étais presque en train de griller. Je n'ai pas eu de chemise pendant toute cette saison-là. Je me disais, si un jour j'avais assez d'argent, à un moment donné, que je puisse m'acheter une carabine 30-30, je serais venu m'installer ici dans l'Ouest pour vivre ici et chasser jusqu'à la fin de ma vie. Je ne voulais rien avoir à faire avec les gens. Je voulais simplement me tenir loin parce qu'ils ne m'aimaient pas et j'allais simplement me tenir loin d'eux. Et puis chaque fois que j'allais en ville pour parler à quelqu'un, je voyais des gars que je connaissais dans la rue. Je disais, « Salut John, Jim, comment ça va? Oh, bonjour. » Vous voyez, ils ne voulaient pas me parler. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi à cause de mon papa et des autres qui fabriquaient du whisky. Et ce n'était pas moi qui faisais ça. Je n'avais rien fait, moi. Et j'aurais été comme ça. Mais maintenant, je disais à ma femme, il n'y a pas longtemps, mon mur est couvert des meilleures armes à feu qu'on peut acheter. Oh, et je pense à ces vieux vêtements sales. Ce soir, j'ai 2 ou 3 bons complets à moi. Et pas d'amis. Je suis obligé d'aller me cacher dans les régions sauvages pour ne pas être avec les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est à cause de ma personnalité? Est-ce à cause de mon instruction? Non, Dieu, riche en miséricorde, m'a vu dans cet état-là. Il m'a sauvé. Je me souviens qu'on me conduisait par le bras comme un aveugle. Je ne voyais pas devant moi, tout était flou. J'aurais été aveugle jusqu'à la fin de ma vie. Mais Dieu, riche en miséricorde, m'a rendu la vue. J'ai 55 ans et j'ai encore une bonne vue. Dieu, riche en miséricorde, c'est tout ce que je peux dire. À un moment donné, l'Église n'avait aucun moyen pourvu pour sa guérison. Il en avait un, mais il l'avait rejeté. Mais Dieu, riche en miséricorde, leur a envoyé un don de guérison divine. C'est le Saint-Esprit parmi nous qui confirme la parole par les signes qui l'accompagnent. Dieu, riche en miséricorde. J'ai 2 ou 3 pages de notes ici, mais je ne vais pas essayer de les donner parce que je vois bien qu'il est presque l'heure de former la ligne de prière. Mais Dieu, riche en miséricorde, beaucoup d'entre vous ici ce soir, les médecins vous ont abandonné. Il y a des gens assis dans ces fauteuils roulants. Ils ne se relèveront probablement jamais de là. Ils sont pour toujours. Certains d'entre eux sont paralysés de différentes manières. Jamais ils ne pourraient pas se relever de là. Il n'y a aucun moyen pour eux de se relever là. Mais Dieu, riche en miséricorde, a pourvu d'une expiation. Ne la rejetez pas. Recevez-la. Il y a des hommes dans l'auditoire qui souffrent du cœur. Il y a des gens qui ont des cancers pour qui les médecins ne peuvent rien faire. Vous êtes sans espoir, sans recours dans ce monde. monde. Mais Dieu, riche en miséricorde, a fait descendre le Saint-Esprit et il est ici même en ce moment pour confirmer la parole, pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce que nous le méritions, parce que Dieu est riche en miséricorde. Amen. Alors, c'est lui. C'est cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Il n'est pas mort, mais il est ressuscité des morts et il est vivant au siècle des siècles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est toujours aussi riche en miséricorde, autant qu'il l'a été à la femme qui avait une perte de sang. Il s'est frayé un chemin à travers la foule. Il n'y avait aucun espoir pour elle. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Elle avait une perte de sang. Elle se mourait. Elle a été touchée. Le vêtement du maître, Dieu, riche en miséricorde, s'est retourné. Il lui a dit ce qu'elle avait. Et elle avait été guérie de cette perte de sang. Un jour, une ville petite prostituée est allée à un puits chercher de l'eau, sans espoir. Elle avait été excommuniée de la compagnie des vierges, de la compagnie des gens. Sa vie ne valait rien. Et elle disait, à quoi bon essayer? On me met à la porte, il n'y a plus rien à espérer pour moi. Mais elle a regardé, et debout au bord, ou assis au bord du puits, il y avait un homme assis là qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Dieu, riche en miséricorde. Ce même Dieu, ce soir, est toujours aussi riche en miséricorde. Et exactement le même qu'il était à cette époque-là. Dieu riche. Je pense que nous avons 200 cartes de prière ici, ce que nous avons appelé de ces 200. Nous allons les appeler et mettre les gens en ligne. Nous allons prier pour eux. Mais avant de faire ça, au cas où il y aurait de nouveaux venus ici pour se débarrasser de toute superstition, il ne s'agit pas ici de superstition, il s'agit de la manifestation d'une promesse de Dieu. Tout dépend de ce que vous regardez. Il n'y a aucune vertu dans aucun homme. Il n'y a aucune puissance dans aucun homme. Mais nous, en tant que croyants, nous avons l'autorité. Pas la puissance, mais l'autorité. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me demandait, il disait, « Frère Branham, croyez-vous que vous avez la puissance de faire ces choses? » J'ai dit, « Je n'ai pas de puissance du tout, mais j'ai l'autorité. Chaque croyant est là. Si vous la refusez, vous resterez où vous êtes. Mais si vous l'acceptez, elle accomplira l'infinie abondance parce que Dieu est riche en miséricorde. » Prenez un petit policier qui est là dans la rue, ses vêtements qui pendent à moitié tellement il est maigre. Il a son képi enfoncé jusqu'aux oreilles. Il va s'avancer dans la rue où les voitures roulent à 50 000 à l'heure avec des moteurs de 300 HP. Il n'a pas la puissance d'arrêter une bicyclette, c'est vrai. Mais qu'il donne un coup de sifflet et qu'il lève la main et regardez bien les freins grincer. Il n'a pas la puissance, mais il a l'autorité. Il a toute la ville derrière lui. Et quand un homme ou une femme, peu importe votre état, vous avez l'autorité de Dieu par une promesse, parce qu'il est riche et qu'il a promis d'accomplir l'infinie abondance. Si vous dites à cette montagne, « Ôte-toi de là » et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez ce que vous avez dit, arrivera. Ce que vous avez dit, vous sera fait. Vous n'avez pas de puissance, mais vous avez l'autorité. Vous vous souvenez quand il m'a dit, là, qu'il a dit, « Tu seras capable de révéler le secret des cœurs. » En effet, vous en souvenez-vous, beaucoup d'entre vous, les gens de Phoenix, il a promis ce qu'il promet, il l'a fait. Or, certains d'entre vous, ici, n'ont pas de carte de prière, et sans doute, combien sont malades et n'ont pas de carte de prière? Levez la main. Bien sûr. Très bien. Si vous voulez savoir, pas l'autorité, pas la puissance, mais l'autorité de la parole, vous ferez aussi les choses que je fais. Jésus a promis dans Luc 17, 30 que juste avant sa venue, il y aurait, comme à l'époque de Moïse ou de Noé, où les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et se doutaient de rien jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il a dit qu'il y aurait une époque comme celle-là. Il a aussi dit ce qui arrivera au jour de Lot. Il a dit ce qui arrivera au jour où le Fils de l'homme sera révélé, quand le Fils de l'homme sera révélé dans les derniers jours. Maintenant, regardez ce qu'il, comment le Fils de l'homme s'est révélé dans la personne de cet ange qui était le Fils de l'homme. Absolument, Abraham l'a appelé Elohim. Il était le Fils de l'homme qui s'est révélé juste avant que le monde des nations soit brûlé. Comment l'a-t-il fait? Aux croyants, aux soi-disant croyants, il a envoyé deux prédicateurs là-bas pour qu'ils leur prêchent. Mais pour le vrai croyant, il s'est tenu là, le dos tourné à la tente, il a dit « Abraham ». Il était Abraham le jour, quelques jours auparavant, mais là, il est Abraham. Où est ta femme, Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais tenir ma promesse envers toi, je vais te visiter. Oh, Abraham avait 100 ans et Sarah en avait 90, mais Dieu, riche en miséricorde, a tenu sa promesse. Alors le bébé est venu, parce que Dieu est miséricordieux. Il est plein de miséricorde, il est riche en miséricorde, il tient sa promesse. Remarquez, il avait le dos tourné à la tente et Sarah a ri. Elle a dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Je suis vieille. Comment pourrais-je avoir du plaisir avec mon mari comme une jeune mariée? Voyons, il a 100 ans. Nos relations conjugales ont pris fin il y a bien des années. Comment est-ce possible? Et elle en a ri. Et l'ange, avec le fils de l'homme, avec le dos tourné à la tente, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, comment ces choses peuvent-elles se faire? Qu'est-ce que c'était? Jésus a dit dans Luc 17, 30 qu'aux jours qui seraient comme ceux de Lot, même situation avant que le monde des nations soit brûlé, il a dit que le Fils de l'homme se révélerait en ce jour-là. Il a fait la promesse, Malachi 4 nous a promis, ce serait dit qu'un message sortirait, qui ramènerait les gens au message originel de la Pentecôte et avec les mêmes bénédictions qu'ils avaient reçues le jour de Caïs. C'est un aigle avec ses deux ailes, le Nouveau et l'Ancien Testament, qui fait battre à l'unisson ses promesses de Dieu pour accomplir ce que les promesses de la Bible avaient annoncé. Amen. Dieu, riche en miséricorde, ne permettrait pas que son peuple soit pris dans cet âge de l'Église de Laodicée dénominationnelle, riche en biens matériels et en choses du monde, mais il allait pourvoir d'un moyen d'échapper. Croyez-y, les amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, riche en miséricorde, la miséricorde de Dieu, c'est la seule chose que je désire. Non pas sa justice, non pas sa loi, mais sa miséricorde. Voilà ce que j'implore. Que Dieu soit miséricordieux envers moi. Nous avons tous ce sentiment-là. J'observais, il y a une petite femme assise ici sur le siège au bout. Avez-vous une carte de prière, madame, là-bas? N'en avez pas? Je vais vous montrer que Dieu est riche en miséricorde. Vous avez beaucoup souffert de nervosité dernièrement, n'est-ce pas? Vraiment beaucoup, et l'état de vos yeux a empiré, pas vrai? C'est vrai. Maintenant, ils vont changer. Dieu, riche en miséricorde, par cette question qui vous est posée, à savoir si vous allez le croire, bon, vous n'avez pas de carte de prière, vous n'avez rien, mais vous n'en avez pas besoin. Voyez-vous, c'est sa grâce qui vous est accordée. Il y a un petit homme pas grand assis là, à l'avant, avec un genre assis juste ici. Il souffre d'une grosseur sur le corps. C'est tout récemment qu'elle est apparue, récemment. C'est bien vrai, n'est-ce pas, monsieur? C'est vrai? Vous ne savez pas ce que c'est. Ça vous fait peur, c'est vrai. C'est à la suite d'une contusion qu'elle est apparue, n'est-ce pas? Avez-vous une carte de prière? Vous n'avez pas de carte de prière? Vous n'en avez pas besoin. Dieu, riche en miséricorde. Oh, frère, sœur, croyez Dieu. Ne doutez pas de lui. Croyez-le. Exact. C'est exact. Il y a un homme assis ici, un veston gris. Il porte des lunettes. Regardez ici, monsieur. Croyez-vous? Dieu est riche en miséricorde. Vous êtes assis là. Vous avez une hernie. Croyez-vous que Dieu peut guérir cette hernie et vous redonner la santé? Assis juste ici sur le siège au bout en train de me regarder. Si vous croyez que Dieu peut guérir cette hernie, Dieu le fera si vous l'acceptez. Le croyez-vous? Allez-vous l'accepter? Très bien. C'est à vous, si vous voulez seulement le croire, qu'il est miséricorde. Oui, monsieur. Il y a une dame assise ici. Elle souffre d'une mauvaise circulation dans son corps. Mais si elle croit, Dieu la guérira si elle le croit. Je crois qu'elle va passer à côté, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Aie miséricorde, c'est ma prière. Cette femme, c'est à peine si j'ai pu voir. Madame Riley, croyez-vous que Dieu peut guérir cette mauvaise circulation? Si vous le croyez, recevez-le. Amen. Croyez seulement. Dieu est bon, n'est-ce pas, Stella? Oui, c'est exact. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il y a une autre femme assise ici, juste derrière, là, au fond, le regard fixé sur moi. Elle aussi, elle a une mauvaise circulation, même chose. C'est à ça qu'elle est en train de penser. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Comme cette autre femme avait le même problème. Regardez-moi, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu ou son serviteur? Vous souffrez aussi du cœur. Si c'est exact, levez la main. Vous n'en souffrez plus maintenant. Dieu, riche en miséricorde. démontre qu'il est vivant ici, dans la salle, ce soir. Dieu, riche en miséricorde. Amen. Est-ce qu'il y aurait combien de pécheurs et de rétrogrades voudraient se lever pour dire, « Oh Dieu, riche en miséricorde, sois miséricordieux envers moi. » Levez-vous. Je vais prier pour vous. Si vous croyez qu'il veut, vous voulez obtenir miséricorde maintenant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous, rétrograde, lève-toi, Dieu, riche en miséricorde. Êtes-vous, vous, sûrement que vous n'êtes pas tombé dans l'engourdissement dans cet état-là au point de ne pas voir qu'il s'agit de la promesse même de cette heure? Sûrement que vous n'êtes pas complètement absorbé par une dénomination et ces autres choses au point de ne pas voir qu'il s'agit de la promesse de l'heure? Dieu, riche en miséricorde, vous qui vous êtes levé, que vous soyez, je vais prier pour vous dans un instant. Je veux que vous alliez à une bonne église du plein évangile et que vous soyez baptisés du baptême chrétien, que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y aura encore une personne qui se lèverait pour dire, moi, je veux qu'on pense à moi. Oh Dieu, dans ta miséricorde, pense à moi, je n'ai pas mené la vie que j'aurais dû. Peut-être que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu, riche en miséricorde, sois miséricordieux envers moi. Que Dieu vous bénisse, sœur. Il y en aura encore combien ici qui diraient, je veux me lever, je veux faire savoir à Dieu que je veux obtenir miséricorde. Je n'ai pas mené la vie que j'aurais dû. J'ai mené une vie comme ceci, comme cela. J'ai eu des hauts et des bas, mais je veux obtenir sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse, frère. Que quelqu'un d'autre qui dirait, Dieu riche en miséricorde. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est ça, riche en miséricorde. Que Dieu vous bénisse, vous aussi. Que Dieu bénisse. Vous dites, est-ce que ça change quelque chose, frère Abraham? Certainement. Levez-vous et vous verrez la différence que ça fait. Si vous êtes vraiment sincère dans votre cœur, Dieu est riche en miséricorde. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu riche en miséricorde. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Maintenant, combien y a-t-il de gens ici qui ont une carte de prière? Qu'est-ce que c'était? A et B, n'est-ce pas? A et B, que tous ceux qui ont une carte de prière A viennent de se placer de ce côté-ci, et ceux qui ont une carte de prière B se placeront derrière eux. Je me demande s'il y a des prédicateurs qui envisageraient de venir m'aider. Si oui, si vous voulez vous avancer, je serai heureux d'avoir votre aide ici, car nous serons heureux de prier et de prier avec vous. Voici, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, monsieur. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. L'avons-nous fait? Par la grâce de Dieu, pas nous, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, est là pour tenir sa parole. Dieu, maintenant les fauteuils roulants, si vous voulez les installer ici à l'avant, nous prierons pour eux. Ici, ce ne sera pas nécessaire de les pousser tout le long de l'année. Qu'ils très bien, qu'ils s'avancent ici. Nous ne manquerons pas de prier pour eux, pour chacun d'eux. Dieu riche en miséricorde, voulez-vous vous placer sur la droite maintenant pour quelques minutes? Est-ce que Frère Brown est venu avec nous? Il viendra demain. J'espérais qu'il soit là. Où est frère Outlaw? Où est frère Fuller? Certains de ceux qui étaient ici avec moi les premières fois que je suis venu, revenons à cela. Vous vous souvenez des lignes de prière à l'anciennement? Nous restions là jusqu'à ce que nous soyons obligés de me tenir un d'un côté, l'autre de l'autre, tellement j'étais faible. Combien ici ont déjà assisté à ces réunions-là il y a longtemps, dans les débuts? Regardez donc, vous vous souvenez à l'époque, je vous avais raconté ce que le Seigneur Jésus m'avait dit, que si j'étais sincère, ces choses-ci se produiraient, pas vrai? À cette époque-là, ça n'était encore jamais arrivé, mais c'est arrivé parce que Dieu est riche en miséricorde. Miséricorde est fidèle à sa promesse. Amen. J'essaie de m'arrêter et je n'y arrive pas. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Amen. Oh là là, il y a des gens presque partout dont le cœur est tout enflammé du feu descendu à la Pentecôte qui les a nettoyés et purifiés. Oh, ils brûlent maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ô moi, malheureux, misérable, pauvre, aveugle, le misérable que j'étais, et maintenant, par sa miséricorde, par sa riche miséricorde, j'entrevois le royaume de Dieu. Amen. Qu'ils sont beaux, ces commandements. Placez-vous juste là, mon frère, avec votre béquille. Si vous ne pouvez pas vous lever, très bien, restez juste ici. Nous descendons prier pour vous. Et maintenant que les A et les B, ceux qui ont ces cartes de prière-là, se mettent en ligne de l'autre côté-là et nous allons prier pour eux. Mes frères, dans le ministère, certainement que vous, si vous croyez à l'imposition des mains aux malades, venez vous tenir ici avec moi sur l'estrade. Nous allons prier pour les malades. Maintenant, quant à vous, les gens qui sont dans la ligne, si vous pouvez croire que la présence de Dieu est ici, que le Saint-Esprit est au milieu de nous maintenant à faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Si j'avais la puissance de vous guérir, certainement que je le ferais. Si j'avais le moindre moyen de vous guérir, certainement que je le ferais. Je ne l'ai pas. Dieu a donné un petit don. Je ne suis pas un prédicateur extraordinaire. Je n'ai pas assez d'instruction. Je ne remplis pas les conditions requises pour être un prédicateur. Ce qu'on appelle un prédicateur, ces jours-ci, alors que les expériences doivent être d'ordre théologique, il faut avoir un certain doctorat et tout. Je ne peux pas remplir ces conditions-là. Mais Dieu, il voit mon cœur et il sait que je veux faire quelque chose pour lui. Je veux montrer mon appréciation. L'autre jour, un homme me disait, je trouve que vous êtes vraiment un brave homme, M. Branham, mais je crois que vous êtes sincèrement dans l'erreur. Vous êtes complètement en dehors de sa volonté. C'est vous que vous êtes allé être condamné au bout du chemin. J'ai dit, écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. Disons que vous ayez raison. Disons, juste à titre d'exemple, si je suis dans l'erreur, ce que je ne crois pas. Mais si j'étais dans l'erreur, et que je sache en ce moment que j'allais vivre jusqu'à l'âge de 100 ans et qu'il allait me condamner au bout du chemin, me dire, tu ne mérites pas d'entrer dans mon ciel, William Branham. Va-t'en dans les ténèbres du dehors. Savez-vous quoi? Je le servirai quand même tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je parte. En effet, j'ai reçu de lui tellement de bénédictions que je ne méritais pas, qu'il est plus que la vie pour moi. Et il est tout ce que je suis, tout ce que je pourrais jamais espérer être, je le dois à sa grâce et à sa miséricorde. J'étais malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Mais c'est par la grâce qu'il m'a guéri et je suis robuste et en bonne santé par la grâce de Dieu. J'ai une bonne vue, j'ai à manger, à boire, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'a jamais promis de pouvoir à mes désirs, mais à mes besoins. Et si je suis rejeté ce jour-là et que je sache, je ne peux pas voir pourquoi je le serais. Mais si je savais que j'étais dans l'erreur et que c'est ce que Dieu a choisi pour moi, que je sois dans l'erreur, je voudrais rester dans l'erreur. Et parce que je veux faire sa volonté. Je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite. C'est toute une affirmation, ça, mais j'espère que vous compreniez la manière, l'esprit dans lequel je l'ai dit. Vous voyez, je veux faire sa volonté. À un moment donné, je lui demande quelque chose, il hoche la tête. Non, je me réjouis tout autant, ça, que je le pourrais s'il disait oui. En effet, nous devrions toujours demander que ta volonté soit faite. Ses noms sont tout aussi, si c'est sa volonté, c'est bien mieux que c'est oui, si c'est sa volonté de faire comme ça. C'est là qu'on l'aime vraiment. Amen. Je me mets à parler de lui, je ne peux plus m'arrêter. Oh, il est tellement réel pour moi. Mes amis, il est tout ce que je suis, tout ce que je pourrais jamais être, tout ce que je m'attends jamais à être. Tout cela est fondé sur Jésus-Christ, sa parole. Je suis reconnaissant ce soir du témoignage du Saint-Esprit, du message. Je sais qu'il se pourrait que certains pourraient être en désaccord avec, mais comme je vous l'ai dit, je suis lié par le devoir envers ce message. Un signe apparu et Dieu n'envoie pas un signe simplement pour montrer qu'il est Dieu. Il y a toujours un message, une voix qui suit le signe. Tout le monde sait ça. Jésus est venu avec des signes et des prodiges. Il est un grand homme quand il opérait des signes et des prodiges, mais quand il s'est assis à apporter le message, moi et le Père, nous sommes un. Oh là là, pour eux, c'était faux, ça, vous voyez. Mais la voix devait suivre les signes. Moïse a reçu deux signes, et chacun de ces signes avait une voix. C'est exact. J'ai prêché là-dessus il y a quelque temps, quelque part, sur la voix du signe. Il doit y avoir une voix, ce signe. C'est un changement. C'est toujours comme ça. Sinon, ce n'est pas venu de Dieu. Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce ministère correspond à la vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s'en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Ça ne vaut rien. Dieu ne fait rien de semblable. Cette affaire-là, c'est de la manne pourrie. C'est grouillant de termites, de vermisseaux, ou du moins que vous voudriez donner à ça, qu'il y a 40, 50 ans, il essaie encore de manger de cette vieille manne qui est tombée il y a bien des années passées. Les enfants d'Israël, quand ils faisaient route, il tombait de la manne neuve de tous les soirs. C'est exact, on ne pouvait pas la conserver jusqu'au lendemain. Nous ne venons pas d'un autre âge qui est du passé. Nous mangeons de la manne neuve, de la manne fraîche qui descend du ciel alors que nous poursuivons notre marche. Maintenant, courbons la tête. Seigneur Dieu, tu es tellement réel. Ta présence, je pense à la grâce, Seigneur. Nous t'avons vu faire tant de choses. Nous t'avons entendu parler en langue. Nous te voyons en donner l'interprétation par ton peuple. Ô Dieu, de te voir guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les boiteux, entendre les sourds, parler les muets. Quel Dieu grand et puissant tu es. Et de voir que tu as promis ces choses pour les derniers jours, bien que nous trouvions beaucoup d'imitations charnelles, reste que celles-ci ne font qu'indiquer qu'il y a un vrai Dieu quelque part qui est réellement vrai. Aussi, je prie, Père Céleste, ce soir, que nous devenions tellement conscients de Dieu que nous reconnaissions que tu es ici. Et ces gens qui sont dans la ligne, quand ils passeront dans la ligne, Seigneur, en effet, si nous faisons comme ça, c'est parce que nous leur avons fait une promesse. Et tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des frères dans le ministère qui sont debout ici, des hommes que tu as choisis avant la fondation du monde, pour qu'ils soient ce qu'ils sont ce soir. Tu savais, avant qu'il y ait un monde, que nous serions debout ici ce soir, parce que tu es infini. Alors nous prions, Père Céleste, ce soir, que ces gens qui sont malades, infirmes, aveugles, boiteux, accablés par le cancer ou quoi que ce soit, quand ils passeront dans cette ligne, qu'ils prennent conscience du fait que le Dieu même qui connaît le secret du cœur les guérira, et s'ils veulent seulement l'accepter, seulement regarder et comprendre. L'homme qui regardait le serpent d'airain en le considérant simplement comme un prêtre, un morceau d'airain, celui-là ne serait jamais guéri parce qu'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est pareil. S'ils regardent un don, en considérant qu'il pourrait peut-être les aider, ils ne comprennent pas. C'est seulement une confirmation de la présence de Dieu qui est ici pour guérir. Accorde-le, Père, que ce soit fait au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que la petite pianiste, si elle le veut, bien, homme ou femme, qui que ce soit, aille là jouer le chant. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus, si elle le veut bien, ou que ce soit, la pianiste, maintenant, c'est... Je me rappelle l'un de mes premiers services de guérison à Fort Wayne, dans l'Indiana. Une jeune fille amiche était assise au piano. Elle jouait « Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus ». On m'a amené un tout petit sur l'estrade. Il était infirme. Pendant que je priais pour le petit, d'un bond, il s'est dégagé de mes bras. Il s'est mis à courir sur l'estrade. La mère s'est évanouie, la grand-mère, son mouchoir en l'air, et elle s'est mise à pleurer. Et cette jeune fille amiche-là, qui ne connaissait absolument rien des pentecôtistes, en effet, elle était membre de l'église amiche, mais elle était en train de jouer. Sa longue chevelure a glissé sur ses épaules. Dans l'esprit, elle s'est levée et elle s'est mise à chanter en langue inconnue. Et en harmonie avec ce chant, et les tous du piano descendaient et remontaient en jouant. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Amen! Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, prions. Là, alors que maintenant que tout le monde dans l'auditoire prie, ceux d'entre vous qui vont passer en ligne, quand nous vous imposerons les mains, souvenez-vous, Jésus a dit que si vous le croyez, vous seriez guéris. Vous le croyez? Maintenant, chantons tous là. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus. Il réconforte. Fermons donc les yeux maintenant pendant que nous le chantons. Cœur abattu. Oh, entendez-vous la voix de Jésus? La note la plus douce du chant d'un séraphin. Le nom le plus doux sur la bouche d'un mortel. Le chant le plus doux. Ô Dieu notre Père, touche les gens maintenant. Chantez. Ô Jésus, Jésus béni. Le grand. Maintenant, pendant que vous défilez maintenant, il est ici. Croyez-moi sur parole, ou bien croyez-le vous-même, il est ici. Que tout le monde dans l'auditoire soit en prière maintenant pour les gens. Ô Seigneur, je crois. Ô Seigneur, je crois. Tout est possible. Ô Seigneur, je crois. Que tous ceux qui croient lèvent la main comme ceci, dites, je crois. Il y a un homme assis ici, la raison pour laquelle j'ai parlé longuement, il se meurt du cancer. Il s'appuie sur cette béquille. Il n'y a absolument aucun autre moyen pour cet homme de vivre, rien que Dieu. Le cancer s'est propagé partout dans ses intestins et sans la miséricorde de Dieu, il mourra. Je souhaiterais pouvoir, parole d'encouragement à cet homme. Vous savez que les médecins ne peuvent plus rien pour vous maintenant. Vous êtes hors de la portée de la médecine, voyez-vous? Et vous n'avez qu'un seul espoir, c'est en Christ, voyez-vous? Et frère, moi aussi, un jour, je mourrai. Vous devez partir si Jésus tarde. Je devrais vous rencontrer là-bas, me tenir là au tribunal du jugement et ce soir. Vous savez, comme la télévision, on a découvert par la télévision que chaque fois que nous bougeons, ne serait-ce que le doigt, n'importe quoi, c'est enregistré. Chaque parole que nous prononçons est enregistrée. Maintenant, voyez-vous, la télévision a démontré ça. Alors, la télévision ne fabrique pas l'image, elle ne fait qu'orienter cette onde pour la transmettre dans le téléviseur. Voyez-vous, elle ne le produit pas. La télévision existait quand Adam a marché sur cette terre. La télévision existait quand Moïse a traversé la mer Rouge. La télévision existait quand Élie était sur la montagne du Calvaire, du Carmel, voyez-vous. Mais on vient simplement d'en faire la découverte, voyez. Et maintenant, partout où chaque mouvement que nous faisons et chaque son, c'est enregistré sur un disque et nous serons confrontés au jugement. Chaque mouvement que nous faisons, nous devrons y être confrontés là-bas. Moi, en tant que prédicateur, je devrais répondre des paroles que je vous dis. Je devrais le faire parce que Dieu n'en rendra responsable. Maintenant, si je le pouvais, je vous guérirais. En effet, il ne vous reste qu'un peu de temps si Dieu n'intervient pas. Bon, je suis descendu et j'ai prié pour vous du mieux que j'ai pu. Faire tout ce qui est humainement possible de faire pour un homme qui se trouve dans cet état-là, je le ferai. Je vais vous demander quelque chose. Voyez-vous, vous êtes déjà guéri parce que Jésus l'a dit. Voyez-vous, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Maintenant, si vous pouvez, du fond de votre cœur, l'accepter, vous ne mourrez pas maintenant, mais vous vivrez. Alors, voyez-vous, là, nous savons que la télévision traverse cette salle en ce moment. Nous le savons, nous ne le voyons pas, nous ne pouvons pas le voir, nos yeux ne sont pas faits, nos sens ne peuvent pas le capter. Il faut qu'un tube soit fabriqué ou quelque chose à galène pour capter ça. Dieu aussi, il est présent. Nous ne le voyons pas. Mais nous savons qu'il est ici. Jésus-Christ est le même. Regardez, il vient de se manifester, de montrer de quelle façon. Or, pour ce qui est de la guérison, il se tenait ici même en ce moment. Il ne pourrait rien faire de plus pour vous. Voyez-vous, absolument rien de plus. Si le Fils de Dieu était ici même, et il l'est. Il est ici, mais il ne pourrait rien faire de plus pour vous parce qu'il s'est déjà identifié comme quoi il est ici. Voyez, il est ici en ce moment même pour vous guérir et vous redonner la santé. La petite dame qui est là m'a dit, elle a dit, vous avez demandé la bénédiction, prophétisé ou quelque chose sur elle disant qu'elle aurait un bébé. Elle est assise dans ce fauteuil roulant et elle a eu. Elle a eu ce bébé. Et maintenant, cette petite dame est assise là et se fait opérer d'un goitre là et elle a été frappée de paralysie. Eh bien, ce sont des choses qui se voient fréquemment. Maintenant, petite sœur, je sais que vous êtes une véritable chrétienne. Pourquoi Dieu vous garde dans ce fauteuil? Je ne sais pas. Je crois que c'est peut-être parce que vous avez la foi, vous essayez d'avoir la foi, vous vous relevez de là, vous voyez. Mais maintenant, regardez. Ne nous contentons pas d'essayer de l'avoir. Ayons-la maintenant, voyez-vous. On va y être, c'est tout. C'est tout simple que ça. À partir de maintenant, c'est parti. On va retrouver la santé. Et ceux d'entre vous qui sont dans des fauteuils roulants, quoi, ou quel que soit votre état, souvenez-vous seulement que Christ est présent. Maintenant, vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous voyez que mon image est en train d'être transmise? Oh oui, les paroles même de Jésus-Christ qu'il a prononcées quand il était ici sur terre passent directement dans cette salle en ce moment. Elle ne meurt jamais. Combien savent que c'est une vérité scientifique? Eh bien, qu'en est-il? Ensuite, l'Esprit saisit cette parole qui a été écrite et il la manifeste. Oh, gloire! Il est ici même, maintenant, le Seigneur. Nous, simplement, nous avons vu tant de choses, il accomplit tant de choses que c'est comme si on, vous savez, comme si on passait par-dessus sans y faire attention. Si nous prenions conscience, ce n'est pas quelque chose de mythique, pas qu'un terme théologique quelconque, mais c'est la preuve. Il a promis qu'il apparaîtrait en ce jour et le voici qu'il le manifeste ici même devant nous maintenant. Comme c'est merveilleux, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, croyez. Voulez-vous le croire? Croyez-vous que vous n'allez pas mourir? Vous allez vivre. Vous allez honorer Dieu. Vous allez honorer Dieu. Avez-vous déjà été baptisé? Est-ce que vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Eh bien, vous voulez vivre pour honorer Dieu? Alors, allez vivre, mon frère. Au nom de Jésus-Christ, vivez. Et sœur, vous voulez marcher pour la gloire de Dieu et vous occuper de votre bébé? Alors, marchez, sœur, au nom de Jésus-Christ. Vous, chacun de vous, pareil, au nom de Jésus-Christ, n'oubliez pas ce motel, Westward, oh, cette soirée, la présence de Dieu qui s'est identifiée ici. Il ne fait pas exception de personne. Tout ce qu'il veut, c'est que vous croyez. Le croyez-vous maintenant? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant.
Si, Seigneur.
Levons-nous.
Merci, Seigneur, de ma voix rétablie. Merci, Seigneur, de ma voix donnée.
Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, de m'avoir rétabli. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ton grand salut, si riche et gratuit. Le sanctuaire
sa grâce.
It's yours.
Ça vous appartient.
How we love you, Lord
Jesus. Oh, comme nous t'aimons, Seigneur Jésus.
And Lord Jesus,
et Seigneur Jésus,
we thank you for your love.
Nous te remercions pour ton amour pour nous.
Lord, send a love letter,
oh, Seigneur, envoie une lettre d'amour à Frère Joseph, que nous l'aimons, de l'épouse à travers le monde entier, Seigneur, qui est assis dans ta présence. Nous t'aimons, Seigneur Jésus.
Before we turn it to Brother Jeremy to dismiss in prayer,
Frère Jérémy, de terminer par un mot de prière,
family,
nous allons nous souvenir de Frère Dan Leadingham et de sa famille, Seigneur. Les funérailles vont être demain
au
9h au tabernacle. Souvenez-vous d'eux en leur prière. C'est un temps difficile, mais priez pour eux, Frère Jérémy. Notre Seigneur béni, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce.
Lord, we know that you're a
nous
God
savons,
rich
Seigneur, que tu es un Dieu riche en puissance
and rich in strength,
et riche en force et riche en sagesse. Comme ton prophète a dit aujourd'hui, la plus grande chose, Seigneur, c'est que tu es un Dieu riche en miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce.
Oh,
nous sommes si reconnaissants pour un Père qui nous comprend, qui sait tout à notre sujet et tout ce que nous passons à travers, Seigneur. Nous savons que tu le sais, Seigneur, et que tu es miséricordieux. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir envoyé ta grâce, Seigneur, d'avoir pourvu le prophète, Seigneur, dans ces derniers jours, d'avoir pourvu d'une voix pour que nous puissions l'entendre, Seigneur. Nous savons que cette voix était si importante pour toi, que tu que tu savais de ne pas la mettre dans les mains des hommes, Seigneur, mais tu l'as enregistré, Seigneur, pour que nous puissions l'écouter, Seigneur. Tu savais que ce serait cette voix sans tache, Seigneur. Et pour l'épouse, il n'y a pas d'autre voix. Il n'y a aucun substitut. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir pourvu, Seigneur, d'un prophète, Seigneur. Oh, Seigneur, comme nous sommes bénis d'entendre notre précieux frère Branham, c'est notre Père dans l'Évangile, Seigneur. Où serions-nous sans ce message, Seigneur? Quelle serait notre vie chaque jour, Seigneur? Où irions-nous, Seigneur? Nous n'avons aucun autre endroit où aller. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir pourvu, Seigneur, un prophète, Seigneur, pour avoir envoyé ta miséricorde envers nous, Seigneur. Demandons Lord, we know you've always nous savons, Seigneur, que tu as toujours agi à travers tes prophètes, comme Frère Branham a dit aujourd'hui. Exode 19:4, je mets mon prophète sur les ailes d'aigle, Seigneur, juste pour le montrer. Que la présence de Christ est à travers les prophètes, Seigneur. Et c'était comme ça que c'était dans les jours passés, Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sur les ailes, Seigneur, au-delà de toutes les doctrines et de ces choses. Nous attachons à ce que le prophète a dit et nous te remercions. Nous avons appris dans les leçons et même dans les rounds passés que lorsque tu marchais vers Emmaüs, que tu allais le visiter, tu n'es jamais loin de Jésus. Je suis Jésus. Et tu n'es jamais venu en disant qui tu étais. Tu as dit, écoutez ce que mon prophète t'a dit. Il va vous dire qui je suis. Il va vous guider. Et qu'est-ce que les prophètes ont dit de lui? Oh, Frère Branham a dit que tu es. Tu fais toujours appel des prophéties. Tu leur as dit qu'ils étaient lents à croire tout ce que les prophètes avaient dit. Et pas ce que les prêtres ont dit, pas ce que le prédicateur a prêché, mais ce que le prophète a dit. Et nous le croyons tous. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu ne vas rien faire sans que tu l'aies d'abord révélé à tes serviteurs, le prophète, Seigneur. C'est écrit dans ta parole, tu ne feras rien. Et dans ton programme, avant de l'avoir révélé premièrement à tes prophètes, alors nous sommes satisfaits, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur, et la conduite de ton prophète, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, d'avoir ta miséricorde à nous, Seigneur, et nous, nous avons envoyé Frère Joseph. Nous savons que c'est la miséricorde de Dieu, Seigneur. Nous croyons ce message et n'importe qui connaît les bandes et qui connaît que son nom est attaché à travers ce message. Il fait partie de ton programme. Nous te remercions pour sa vie, Seigneur. Maintenant, nous savons qu'il vit.
This world's ever seen, Lord, in distributing the word across the world, Father.
Que le monde n'ait jamais connu. Il n'y a jamais eu un temps, il n'y a jamais eu un jour comme ce jour, Père. Et de prendre ces tablettes agapao dans chaque maison qui croit dans le monde entier. Oh, Père, comme ton prophète Abraham a dit, nous avons des opportunités maintenant que Paul jamais pu rêver d'avoir. Seigneur, nous sommes si reconnaissants de faire partie de ce grand programme, Seigneur. Cela nous rappelle les Écritures, comment l'éclair a traversé le ciel, et ce sera de la même au jour du Fils de l'homme. Et nous avons l'ange de lumière, et aujourd'hui, ça traverse le monde entier, Seigneur. Et nous écoutons un message à Jeffersonville, et ça monte au ciel, et ça descend dans des petits villages où il y a des huttes, et à travers le monde entier. Oh, nous te remercions, Seigneur, d'avoir vu ces prophéties s'accomplir, pas seulement de les voir, Seigneur, mais d'en faire partie. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous en avons besoin. Pardonne-nous de nos murmurements et nos échecs et nos manquements, Seigneur. Comprends, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur.
Et
rappelons de la famille Leadingham, et aujourd'hui, nos cœurs sont lourds, alors que un véritable homme de Dieu qui est parti de nous, Seigneur, pour être dans ta présence. Mais Seigneur, il a tenu pour la bonne chose, Seigneur. Et nous savons qu'il est avec toi, Seigneur, dans la gloire aujourd'hui. Et nous sommes si heureux en tant que croyants, Seigneur. Nous n'avons pas des pleurs de tristesse, mais de joie, Seigneur, que ce soit avec la famille, avec sa sœur Lidingham. Seigneur, nous savons qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Réconforte-les aujourd'hui, nous prions. Seigneur, alors que nous remettons ce service maintenant et que nous le remettons entre tes mains, nous prions que tu sois avec nous, que tu sois avec nous tout au long de la semaine, que tu nous guides, sois notre guide pour ta parole, Seigneur. Nous terminons le service dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Par cette parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. La réunion est terminée dans le nom du Seigneur. Paix à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse.